écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 14 novembre 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h, du reggae avec Zarma Farai, et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici les vieux papiers recyclés que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
On est en plein Mad Max, Mad Maxerie à fond, mais c'est l'histoire d'un bonhomme qui se retrouve d'après lui tout seul et qui doit donc le dernier et donc il doit chercher des femmes pour justement procréer et sauver la race humaine. Bon, c'est ça le pitch du film en fait quoi.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
J'ai un mot d'excuse de JB, il sera pas là cette semaine, désolé.
Oui, il a été excusé, il nous a montré voilà. Le petit papier.
Il va falloir trouver un lecteur de Télérama et des un rock alternatif à JB, un peu plus souvent présent, peut-être même prêt à s'impliquer. Allez, je vais prendre un blogueur musical, ça va faire chier JB, ça me fera plaisir.
Mais non, il y a trop de musique sur FMR.
Par oui, contre, c'est vrai en plus.
Par contre, il sera la caution test de jeu, tiens, puisque c'est vraiment qu'on en parle.
J'ai dit que non, fais pas du jeu, c'est non. Pas intéressant, c'est limité à des plateformes, il faut payer très cher une console, il faut payer très cher une.
Je pense que t'as un problème jeu. Avec ce média parce que d'abord tu disais oui on veut pas parce que c'est il faut payer les plateformes, après tu dis non, il faut un minimum de préparation donc on peut pas. Donc le gars il joue hein.
On est ça des spécialistes. Oh.
Mais nous sommes des spécialistes ici.
Non, cette émission a disparu de France 2, Thomas. Des spécialistes. Ils ont fait 4 numéros et puis... Ceci dit, qu'est-ce que l'on a ben d'abord, bonjour et bienvenue et bien heureux de vous recevoir dans notre studio. Enfin, plus exactement, c'est vous qui nous recevez dans vos petites oreilles. Donc merci de nous laisser squatter. On va s'asseoir sur les tympans et on va vous faire... Découvrir un homme politique, essayiste, romancier, largement plus intéressant que nos philosophes comme Alain Finkielkraut ou Bernard-Henri Lévy. Comment ça, c'est personnel là ? Enfin, pas forcément. Cette semaine, si vous écoutez en direct sur FMR 89.1 MHz, ou si, je ne sais pas, peut-être que j'aurais mis le podcast dans les temps, n'en sais rien. Demain, dimanche, à la salle des fêtes de Ramonville, parc technologique du canal, il y aura la bourse de la bande dessinée, donc des échanges. Des vieux papiers à découvrir, des vieux illustrés et plein de choses, ça tombe bien, c'est le sujet de l'interview de tout à l'heure. Dans 15 jours, pardon, excusez-moi, ce sera le 3e Toulouse Game Show, ce sera à la salle Diagora à la Beige. Bon, les invités qui sont déjà confirmés, il y aura Corinne Nemec, Bernard Minet, Nerds, Noob, Suzuka Azuaka et Alex Pilot. Ce qui fait qu'en fait, on parle beaucoup plus des gens de nos lives. Que des chanteurs rock ou des spécialistes des voyages spatio-temporels. Étonnant.
Bah, c'est sur le nombre. Après, quand tu vas sur le site, il y a de Corinne les mecs en énorme.
En énorme. Mais de toute façon, je l'ai imprimé pour Duce, comme ça il aura de quoi parler. Et faire semblant de connaître parfaitement la carrière d'Alex Pilot et de Suzuka. Non, vous allez me dire que j'en fais trop sur nos lives. Bon,
non,
à peine. Non, mais je ne fais pas de la pub pour leur service abonnement parce que sinon ce serait gênant. Techniquement, pour moi, pendant l'émission et tout le reste, j'en fais assez sur le blog. Ceci dit, donc, après, il y aura Serge Pelé, dessinateur d'Orbital. Ce sera samedi 5 décembre à Terre de Légende où il sera il fera une expo de ses planches originales. Donc vous pourrez voir de près justement la série Orbital dont on vous rabâche les oreilles régulièrement. Enfin moi j'aime, Thomas n'aime pas franchement. Donc les avis sont partagés, c'est un petit peu normal. On est une émission chiante qui parle de culture et où en plus les animateurs ne sont même pas d'accord entre eux. Inutile de vous dire que c'est d'un certain conformisme puisque tout le monde fait ça en ce moment à la télé et à la radio.
Oui, nous sommes une émission conformiste.
Voilà. Terry Gilliam tout à l'heure dans les chroniques cinéma. Dans la chronique cinéma, pardon.
Oui, c'est vrai que aujourd'hui ça va être assez dur de zapper des chroniques.
Elles font un peu. Enfin, elles sont incontournables, voilà. Il y aura pas de chronique BD tout simplement parce que, je me suis pris en retard, réveil lourd, difficile et tout le reste, et puis semaine très chargée, très occupée, mais ça vous en avez strictement rien à foutre. Non, il y aura pas de chronique BD même s'il y a des choses à dire, à lire, etc. Mais vous allez voir dans l'interview, notre interlocuteur dit tout ce qu'il pense justement de ceux qui s'expriment sur papier glacé pour finalement ne pas dire grand chose. Lui, il est plutôt les vieux papiers, plutôt le roman pulp sur du papier qui va pas tenir très longtemps. Les illustrés qui sont condamnés à être éphémères. Excusez-moi, j'ai placé le nom de la radio. Tout ce genre de choses sont plus ou moins intéressantes. Je suis en train de remplir, de faire du blabla, parce que Dusport est encore en train de se gratter la tête, de régler son casque et ensuite son micro. Alors que quand même, la personne dont nous allons diffuser l'interview, que l'on a rencontré en janvier dernier à Angoulême, est quand même très intéressante, puisqu'il s'agit d'Yves Frémion.
Ouais.
Yves Frémion, c'est pas n'importe qui.
Non.
Yves Frémion, c'est un animal particulièrement intelligent. Par exemple, si vous souhaitez l'attraper dans une interview, il faut vous lever plutôt tôt, honnêtement, sincèrement. Pas pour l'attraper, non. Il est plutôt docile, joueur, il se prête bien au jeu des questions et des réponses. Non, il faut juste compulser une documentation énorme. Ne serait-ce que pour saisir tout le sel de ses calembours. Yves Frémion a ainsi une réputation, pas usurpée, de calembours particulièrement vertigineux et catastrophiques. Il signait Yves Frémion de la Fermée dans ses chroniques dans Fluide Glacial. Bref, inutile de dire que par toutes les rédactions où il est passé, c'est... D'accord, alors, ce jeu de mots, c'est en référence à quoi déjà, là? Et tout le monde attend avec impatience le jour où il passera où il écrira un amendement un projet de loi, parce qu'on s'attendra à ce qu'il y ait vraiment de sacrées gosseries dans la moindre ligne sur quelque chose qui nous concerne tous. Les lois, merde, bordel de Dieu.
C'est bon, là, je peux y aller?
Mais vas-y, vas-y.
Je voulais savoir si tu connaissais l'origine de l'expression pulp.
C'est le papier lui-même. C'est un papier qui est à base, qui est une pulpe, en général, plutôt recyclée, pas très bonne qualité.
Voilà.
Donc, c'est de là que ça vient, mais je t'en prie.
Pelure d'oignon. Et c'était des papiers donc de mauvaise qualité qui étaient faits à partir de bases de pelure d'oignon. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais avant, c'était des papiers donc de mauvaise qualité et qui étaient soi-disant réservés à la presse de seconde ou de troisième zone. C'est-à-dire les périodiques.
Tu parles des zones RATP parce que nous on est à Toulouse.
Non, le seconde ou troisième zone, bien sûr, à savoir
ce
qui sortait sous le nom Pulp Comics, Pulp Novel aussi, quoi, à savoir des romans de détectives, des romans de science-fiction, tous les sous-genres qui à l'époque étaient méprisés. Et ça, c'est apparu dans les années 20 et dans les années 30. Et c'est ce qui a donné un petit peu par la suite, dans les années 30, les comics qu'on connaît, et bien entendu aussi toute la vague des polars, des éditions de polars, des auteurs comme Hammett, les fondateurs, on va dire, du roman noir, ont commencé et ont écrit pratiquement tous, Thompson, enfin toute la bande, ils ont tous écrit dans ces espèces de périodiques, des mensuels, où c'était des petites nouvelles de 4-5 pages comme ça, des petits trucs, et donc ont commencé leur carrière avant de pouvoir sortir des livres, des gros livres, parce que c'était quand même des sous-genres, ils éditaient et ils gagnaient plus ou moins leur argent de cette façon-là.
Ça tombe bien, il a évité de faire des redites par rapport justement à l'interview d'Yves Frémion. Donc je reviens à Yves Frémion. Il a de multiples activités. Il est écrivain, il est essayiste, il est homme politique, il est inscrit au Parti des Verts, député européen de 89 à 94, puis actuellement député régional depuis 98 en Ile-de-France. C'est l'ancien vice-président du réseau Voltaire, mais surtout, c'est le rédacteur forcené des papiers nickelés, dont le numéro 22 est sorti, que je vais vous présenter. Yves Frémion, on le retrouvait dans des revues critiques comme Bravo, Le Collectionneur de Bande Dessinée, Univers, Phoenix. Il a écrit de nombreux ouvrages d'études, notamment à la Sedli ou chez Albin Michel, soit sur la bande dessinée Septimiquée, soit sur la science-fiction, soit sur les polars. Bref, énormément de choses. Yves Frémion, l'interview, on aurait pu la passer, c'est vrai, en avril dernier, mais il se trouvait qu'on était en pleine période électorale et ça nous aurait posé des problèmes vis-à-vis de l'équilibre politique qu'il aurait fallu respecter sur le temps d'antenne sur Radio FMR. Donc c'est une interview qu'on a enregistrée en janvier dernier. On l'a chopé dans un coin, on est parti dans les photos, enflammé, notre service photo a eu beaucoup de mal à le prendre en photo sans qu'il fasse des grimaces, parce que c'était son grand jeu. Bref, il y a plein de non-dits qui se passent un peu en visuel, mais c'est un personnage à part entière. Yves Frémion, donc, on l'a interviewé. C'est un immense plaisir que l'on partage avec vous. Ce serait dommage de se le réserver pour nous.
Yves Frémion, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Frémion.
Je vais tutoyer, hein, puisqu'on est tous les deux membres de la CBD, Association des critiques de bande dessinée. Ça fait une corde en plus à ton arc. Tu es conseiller régional. Ça fait copinage comme interview. Sachant qu'en plus, tu es conseiller régional, tu écris dans Fluide Glacial, tu as été conseiller, tu as été élu à l'Assemblée européenne. Tu as. En fait, si je réfléchis bien, on est obligé de rajouter un volume au Who's Who pour écrire ta bio.
Oui, ben, moi j'aime pas faire deux fois la même chose. Je suis comme Picasso qui disait il faut jamais recommencer deux fois le même tableau. Et il disait ça en signant le 500e portrait de Dora Maar. Mais moi j'ai pas fait 500 fois le même livre. Et en fait, tout ce que je trouve marrant à faire, je le fais. Alors j'ai encore des trucs à faire. J'espère faire avant ma mort, grimper le Machu Picchu, remonter le Nil, être président de la République et marquer 3 buts en Coupe de France de football. Mais je pense que je vais peut-être renoncer au football.
Je n'aime pas le football du tout.
En fait, tu es un honnête homme, comme on l'entendait au 18e. S'il y a quelqu'un qui a un savoir encyclopédique et qui aime bien justement en faire profiter ses proches et le vaste monde.
C'est la seule chose défendable dans le XVIIe siècle, c'est...
Pardon, XVIIIe.
Le XVIIIe siècle, dans les années 1700, c'était ce concept, c'est que les gens essayaient de devenir des hommes de savoir. Je dis des hommes, c'était souvent des hommes, il y a quelques femmes qui y sont parvenues, mais à l'époque, c'était vraiment le rêve, on appelait ça l'honnête homme, qui le mot honnête n'a pas le sens d'aujourd'hui, mais c'était, on ne pouvait pas être un homme bien, si on n'avait pas tout étudié, tout regardé pour essayer de comprendre le monde. Et aujourd'hui, on vit exactement dans l'inverse, c'est-à-dire que les gens se spécialisent dans un truc, ils sont très pointus dans un machin et crétins dans tout le reste. Alors évidemment, ça conduit la société à être menée de façon stupide, puisque soit on fait une somme de savoir qui ne se coordonne jamais, soit on fait une somme des incompétences. Et donc dans les deux cas, ça foire. Et d'ailleurs, ça foire.
C'est fabuleux. C'est automatique. Ta carrière politique, quand tu as décidé de t'y lancer, c'est justement parce que tu as eu assez de savoir et tu t'es dit, mais quand même, qu'est-ce qu'ils sont cons ceux qui prennent les décisions? Ou c'est parce que finalement, il y avait une place et tu l'as prise?
Non, il n'y avait pas de place du tout à ce moment-là. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui a envie d'intervenir sur un certain nombre de choses et j'ai toujours eu une activité associative assez importante. Et activité syndicale aussi, j'étais président de mon syndicat, etc. Bon. Et puis, quand tu te bases sur le terrain, sur un certain nombre de choses, tu t'aperçois vite que tu peux parfaitement réussir ton combat. De toute façon, c'est pas celui qui se bat qui décide. C'est-à-dire qu'in fine, la décision est prise par d'autres gens. Alors donc ces gens, soit tu les convaincs, soit tu les menaces, mais à un moment, la difficulté est de faire passer ce que toi, tu réussis à élaborer chez des gens qui n'ont rien élaboré du tout. Et ça ne marche pas. Donc à un moment, tu te dis, ben, il faut que je le fasse moi. Donc je suis rentré en politique, j'avais 40 ans. Je me suis pris très tard. sinon aujourd'hui je serais un jeune élu encore. Mais donc je m'y suis pris très tard parce qu'avant j'en voyais pas l'utilité et c'est simplement le... Je te dis, ces limites qu'il y a au combat associatif et syndical, qui sont absolument essentielles, mais si ça ne débouche pas sur la décision politique, il ne se passe rien. Et donc, j'ai décidé de participer à la décision politique. Donc, je suis rentré dans un parti. 18 mois après, j'étais député européen, donc j'étais plutôt efficace. Mais c'était une époque où personne ne voulait y aller. Il suffisait de le premier qui levait le doigt, il était dans les éligibles. Aujourd'hui... Aujourd'hui, il faut d'abord tuer 400 copains et puis après, tu as une chance. Mais à l'époque, c'était facile. Donc voilà.
C'est comme ça qu'on devient tête de liste au Vert ?
Je n'étais pas tête de liste, mais enfin, j'étais quand même. J'étais 17e sur la liste. Tu vois, c'était pas si bien placé que ça. Mais à l'époque, on coupait les mandats en deux. Alors donc, on a placé 17 personnes. Donc le couperet est passé juste derrière. C'était bien, c'était bien. J'ai bien aimé.
Qu'est-ce que tu préfères pour diffuser une idée ? 500 tracts ou une BD ?
Ben ça dépend sur quoi c'est. Si c'est sur le système bancaire, je suis pas sûr que la BD soit très efficace. Alors maintenant, tu peux prendre une BD très épaisse pour assommer tous les gens qui te font de l'ombre. C'est plus efficace qu'un paquet de 500 tracts. Mais si c'est pour le lire, je sais pas. Je pense que, très franchement, c'est deux moyens qui vont pas être très efficaces tout seul, ni l'un ni l'autre. Track, c'est une manière de faire comprendre ce qu'on est en train de faire en général, c'est pas un moyen en soi. Et quant à la BD, c'est plutôt comme tous les éléments culturels, des choses de fond, de terrain, c'est-à-dire c'est le terrain que tu entretiens pour que le moment venu, l'action que tu entreprends soit comprise par le maximum de gens. Tu vas pas changer quelque chose en faisant une BD, mais par contre tu entretiens un état d'esprit chez les gens qui te lisent. Tu les aides à comprendre la situation. Mais une BD, un roman, un film, bon, enfin, tout est culturel.
Justement, est-ce que les électeurs de Yves Rémillon connaissent Yves Rémillon, l'homme de BD ?
Ça dépend. Ceux qui connaissent la BD, oui. Mais il m'est arrivé des situations des fois cocasses, quoi. Des gens qui se demandaient vraiment si j'étais le même. Et des gens qui arrivaient tout timides au Parlement européen avec un flux glacial à faire dédicacer en pleine réunion. Ça, j'ai vu ça. Des huissiers, par exemple.
Des adversaires politiques
Non. Par contre, j'ai au Conseil régional en Ile-de-France, j'ai comme ça des gens qui sont venus me voir au tout début de mon premier mandat. Je ne les connaissais pas du tout. Ils m'ont dit « Oui, on a eu des listes, formidable. » Il faut vraiment qu'on se voit, qu'on cause, et puis on entame une conversation sur le polar. Et moi je leur parle de Deninx, de Manchette, ils disent ouais, ils sont super, mais quand même, nous on préfère ADG. Puis au bout d'un moment, j'ai une copine qui me dit mais qu'est-ce que tu foutais une demi-heure avec les mecs du Front National ? C'est toute l'équipe du Front
National. Et qui lisent Manchette ?
Mais non, ils lisent, ils sont des fous de polar. Mais tu sais que Manchette et ADG étaient très potes. Si tu lis le premier tome du journal de Manchette, il parle d'ADG plutôt de manière sympathique. Considérez que c'est un bon auteur. Salué par le Front National. D'ailleurs, quand j'ai fait la biographie de Serre chez Glénat, ils sont venus me voir en disant « Formidable, que tu parles d'un dessinateur comme ça, c'est vachement courageux de ta part, toi qui es... » Moi, ils pensent que je suis de gauche. Je suis en tout cas en alliance avec la gauche. Et alors je dis bon oui pourquoi. Et puis tout à coup je percute, c'est que évidemment je raconte les 12 ans où Serre a travaillé à Minute. Et alors eux ils m'ont dit tu sais on sait où sont les dessins, on les a récupérés. Ah bon. Et bon voilà. Et puis une autre fois quand j'avais fait la biographie de Germaine Bourré, j'avais raconté que Germaine Bourré avait été soupçonnée à la Libération d'avoir été collabo. Parce qu'elle avait fait quelques dessins, elle avait illustré une couverture de la biographie du maréchal Pétain, des trucs comme ça. Et ils étaient vachement contents, ils avaient fait un article, une page entière, c'était pas dans Minute, c'était dans Présent, sur Germaine Bourré, tu vois, qui avait fait des trucs pour le maréchal. Et ils m'ont dit, ouais, c'est bien que tu parles de dessinateur comme ça. Alors maintenant, je vérifie les biographies d'avance maintenant pour voir qu'il n'y a rien de soupçonnable, tu vois. Voilà.
Dans le milieu de la BD, tout le monde a l'impression que tu l'as depuis toujours. Ça te fait quoi, ce côté Michel Drucker ?
Ben, si tu veux, quand j'ai vu arriver un petit garçon qui s'appelait Rodolphe Topfer en 1827... non, ben oui, moi je suis tombé dans la BD assez tôt. Et moi je suis de cette génération juste après 68 qui a vécu un phénomène très important dans la culture française, c'est la légitimation de tout, enfin ce qu'on appelait avant les paralittératures, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas reconnu par la culture bourgeoise est devenu d'un seul coup parfaitement acceptable par la bourgeoisie. Donc tu as commencé à voir des gens lire des polars au bistrot, jamais t'aurais vu ça avant, les gens auraient eu trop honte. Des cadres sup ouvrir une BD au Fouquet, des journaux bien pensants ouvrir des rubriques sur la BD, sur la science-fiction, sur des tas de choses comme ça. Les revues musicales parlaient de jazz, parfois même de rock and roll, enfin toutes ces choses qui étaient... n'en parlait jamais. Je prends souvent un exemple, la plupart des jeunes ne me croient pas quand je dis ça. La première fois que la télé française a montré Elvis Presley en train de chanter, c'était le jour de sa mort. Jamais on n'avait vu Elvis Presley à la télévision française. C'est pourtant toute la jeunesse, tu vois, c'était vraiment l'idole absolue, mais on ne l'avait jamais vu. Et le jour de sa mort, il y a eu une séquence de 4 ou 5 secondes où tu le voyais se déhancher. Jamais avant. Donc, on voit rien qu'avec une anecdote comme ça, on voit le changement culturel majeur qu'il y a eu dans la société française, qui tout à coup s'est emparé de tout ce qui était des choses inexistantes. Ça n'existait pas dans la culture, ça n'existait pas dans l'enseignement. Et moi, je me souviens que quand j'ai passé mon bac, il y avait des profs qui interrogeaient les gens sur, Boris Vian. Putain, mais c'était la révolution! Un prof te pose une question sur Boris Vian. D'habitude, on t'interrogeait sur Bossuet au bac. Tu vois, donc ces gens-là, c'était des sulfureux, ultra-révolutionnaires. Moi, j'ai passé mon épreuve d'anglais sur une chanson de Dylan. 19, évidemment, je les avais déjà toutes traduites. Tu vois, le mec, il ne le savait pas, d'ailleurs. Moi, j'ai vécu cette époque-là. Donc, évidemment, je suis de la génération, on s'est jeté sur le polar, la SF, le porno, la BD, le dessin de presse. On a tout dévoré, on mélangeait tout. Aimer l'un, c'était aimer tout le reste. La musique, bien sûr, j'oubliais, bien sûr, toute la musique de cette époque, c'est la musique pop. Tout ça, c'était un courant, c'était l'underground, c'était tout ça. Évidemment, on est arrivé comme des boulets de canon en faisant chier tous les vieux cons qui nous parlaient de l'âge d'or américain, les Molly Terny, salut Claude, parce qu'après on a été potes, les Molly Terny, les Filippini, les Coupri, tout ça qui, bon, pour nous, ces gens, ils nous parlaient de. Tu vois, nous, l'âge d'or, oui, bien sûr, il y avait un ou deux trucs, mais tout le reste, c'était de la daube. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je pense, dans l'ensemble, c'était de la daube. Je ne sais pas si vous avez lu la Raoul et Gaston, mais c'est vraiment pas bon. Mais. Et donc on a commencé à écrire et à créer les journaux pour écrire, et voilà, c'était comme ça que ça s'est passé. Donc effectivement, oui, je suis très vieux dans le métier.
Complètement vieux, si je peux dire, puisque tu fais une revue sur les vieux, les papiers nickelés. Alors justement, présente-nous cette revue, est-ce que c'est une revue de référence de ce côté-là ?
Dans Papier Nickelé, toute personne désirant de parler de quoi que ce soit concernant le dessin imprimé sur papier avec enthousiasme peut le faire. À condition que ça reste évidemment dans la taille qu'il faut. Tu y trouveras des articles sur Aurelia Horita, sur même sur des choses dont aucune autre revue n'a encore parlé. Elle va en parler bientôt. Sur Bruce Leacher, par exemple, sur les pochettes de disques ultra. Ultra top dans le graphisme, mais aussi de choses très vieilles. On peut parler des vues vénitiennes du Canaletto, on peut parler des graveurs du XVIIe siècle, on peut parler des images piégées sous la Révolution française, des gravures piégées, on peut parler de tout ça, et puis de vieilles BD, et puis de BD récentes, comme on veut, ça dépend qui écrit dedans. Vous pouvez parfaitement écrire dedans demain si vous voulez.
Il faudra qu'on y songe, mais on fait de la radio, c'est parce qu'on fait trop de fautes. Enfin, moi, j'en fais beaucoup. Les papiers nickelés. Les papiers nickelés existent depuis combien de temps ? C'est une périodicité de combien ?
Papier nickelé est un trimestriel qui paraît depuis 5 ans maintenant, puisque le premier a été distribué lors d'un Angoulême. Le numéro 20 va sortir fin mars. Donc c'est une revue qui parle de bande dessinée, de dessin de presse, d'illustration, de gravure, d'imagerie populaire, d'affiches. Et quand je dis imagerie populaire, c'est tout ce qu'on appelle nous la petite imagerie. Donc tout à l'heure, j'ai bu des coups là au Prichlingo avec Gérard Descrambe, qui est un producteur de Saint-Émilion, dont toutes les étiquettes sont faites par des dessinateurs et à qui nous avons consacré un grand article sur la collection Descrambe, c'est-à-dire ce mec qui met du dessin sur toutes ses étiquettes. Donc on parle d'étiquettes de vin, d'étiquettes de camembert, d'images pieuses, de sous-boc, d'images de sucre ou de... voilà, enfin toutes les images où elles sont et imprimées sur du papier. Attention, on ne parle pas du reste. On ne parle pas de photos, désolé.
On voit, tu as vraiment une... tu as fait démonstration justement d'une partie de ta culture à partir de là. Quel est l'inconvénient d'avoir un savoir universel ?
Bah, mon savoir n'est pas universel puisque le vrai vertige du savoir, c'est que chaque fois que ton savoir avance de un pas, ton ignorance augmente de 10. C'est ça la définition du savoir. Savoir t'ouvre toutes les portes successives de ton ignorance croissante. C'est pour ça que c'est un vertige et que c'est un plaisir que aucun extasie ne procurera jamais. J'essaie d'expliquer ça à mes enfants. Leur dire que, ben oui, il faut qu'ils sachent tout. Et que plus ils voudront savoir tout, plus ils verront un monde immense. Alors, c'est bien parce que c'est une bonne métaphore du monde de la BD, puisque plus on en lit, plus ces cons d'éditeurs en publient d'autres, et on n'arrive jamais à rattraper. Même si on recevait tout en service de presse, on n'y arriverait pas, puisque 4700 livres par an. Moi, je suis un gros lecteur, je ne lis pas que de la BD, mais je lis entre 1000 et 1200 livres par an. Si je voulais lire que de la BD, j'y arriverais pas. Heureusement, il y a beaucoup de merde. Mais moi, je lis des livres d'histoire, je lis des biographies, je lis de la SF, du polar, des romans, de la poésie, du théâtre, je lis tout ce qui existe à l'ouest du Pecos. Mais travailler son savoir et la connaissance, c'est rentrer de plus en plus dans une jungle inextricable. Et c'est pour ça que c'est bien. On n'a jamais fini d'explorer le monde, quoi.
Alors, dans nos dossiers compromettants, nous avons retrouvé une interview que tu avais accordée à Didier Passamonique, où tu disais « l'esthétisme et la BD sont antinomiques ». Et on voudrait que tu nous précises un peu ça. Oui,
c'est écrit.
Oui, mais c'est Passamonique qui l'a écrit.
À propos de Marjane Satrapi, je crois.
Putain, je vois pas le rapport. Enfin, je pense que j'avais dû... Non, mais je pensais que ça devait... Non, moi j'aime bien Marjane Satrapi, mais justement, ce qui est très bien dans Marjane Satrapi... Enfin, je devais parler de Persepolis à ce moment-là. Persepolis, on va pas grimper au mur à cause du graphisme et du dessin. C'est pas du tout fait pour ça. Tu isoles une case de Persepolis. Bon, il y en a peut-être une ou deux qui vont être sympas, mais c'est pas non plus un truc que tu vas mettre dans ta salle à manger et ne jamais t'enlacer, quoi, tu vois. Bon, c'est pas un dessin de Dubout, c'est pas bon. Et par contre, c'est une BD parfaite, c'est-à-dire que elle fonctionne complètement, tous ceux qui l'ont lu sont rentrés dedans, tout le monde a été intéressé par son propos, elle est d'une clarté exemplaire au niveau narratif, et en plus elle a réussi une adaptation filmée. Donc, et c'est vrai que ce que m'évoque cette phrase de ce grand penseur contemporain que je ne connaissais pas, qui s'appelle Yves Frémion, c'est que c'est l'antinomie absolue, qui est d'ailleurs vachement entretenue, entre ce que j'appelle moi le monde des beaux-arts et le monde de la bande dessinée et le monde de l'art populaire. Alors s'il y a un mot qui fait dresser les mains en forme de croix comme devant un vampire dans le milieu artistique, c'est le mot populaire. C'est pour ça que moi j'insiste absolument pour garder le mot populaire chaque fois qu'on parle qu'il y a la revue Papier Nickelé, l'imagerie, l'image populaire. Je tiens beaucoup à ce mot, c'est un mot essentiel. On a flingué tout ce qui était populaire, par exemple dans Paris. On a enlevé le musée des arts et traditions populaires, on l'a détruit. Le musée des arts forains, qui est le seul dernier musée, va disparaître, puisque ni la ville ni l'État n'ont jamais rien voulu faire pour ces choses très caca qui sont les choses populaires. Et le mépris qui est mis des fois dans le mot « Ah oui, mais c'est un illustrateur !» C'est quelqu'un qui fait de la bande dessinée, des histoires. Tu vois, c'est l'horreur pour beaucoup de gens, et notamment dans le monde de l'enseignement. À l'inverse, les vrais défenseurs de la culture populaire, eux, alors vraiment, la peinture, les installations, c'est la daube complète. Alors c'est idiot parce que dans les deux mondes, il y a des choses très intéressantes. Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux gens qui ont essayé de torpiller ces barrières. Il y a quelqu'un à qui on n'a jamais vraiment rendu hommage pour ça. Il a été un très grand enseignant qui s'appelait Claude Lapointe, qui par ailleurs un excellent illustrateur. Et Claude a été enseignant jusqu'à il y a quelques années à l'école de Strasbourg, qui est peut-être la meilleure d'Europe, quoi. Et lui, justement, il a dynamité complètement les frontières. Il leur apprenait la BD, le dessin de presse, l'illustration, le volume, la peinture, tout pour que, justement, ils aient une palette large, qu'ils puissent aller travailler, parce que lui, il forme des gens qui vont bosser, qu'ils puissent aller travailler un peu partout, qu'ils ne s'enferment pas dans un genre. Mais à part des gens comme ça, ce mépris existe toujours. Alors, il s'exprime de façon complètement négative avec « on ne veut pas » mélanger avec ces gens-là, ça c'est la caricature traditionnelle, mais il y a une forme moderne de ça qu'on voit dans un certain nombre de revues d'art qui créent des rubriques bande dessinée. Alors là c'est formidable.
Beaux-Arts Magazine,
mes camarades de Beaux-Arts par exemple sont exemplaires de ça. Je dis ça parce que Fluide Glacial et Beaux-Arts c'était la même chose à un moment, c'était la même maison, plus maintenant. Et eux, leur grand truc c'était il n'y a pas que, hein, tu trouves ça dans plein de revues très, 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 branchées dans certains quartiers parisiens. C'est, Nicolas de Crécy, Edmond Baudouin, Franquin, vous comprenez, quel artiste. Alors, ils vont puiser les gens dont le graphisme est spectaculaire, magnifique, plastique. Tu vois, Barbier, par exemple, des gens qui sont des dessinateurs admirables, hein, moi je les aime beaucoup, mais ils vont puiser ces gens-là, et leur idée c'est de les sortir du monde épouvantable de la narration où ils s'enterrent pour qu'ils deviennent des art artistes que l'on puisse accrocher au mur des graaleries, tu vois ce que je veux dire. Bon, et donc d'ailleurs on leur demande de plus en plus maintenant de ne pas mettre les textes à l'intérieur des bulles, parce que si tu mets des textes à l'intérieur des bulles, ça ne peut pas passer pour de l'art d'un art artiste qu'on met dans une graalerie, tu comprends. Alors ça, je trouve que c'est très 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 drôle à regarder, sauf que ça commence sérieusement à me brouter, quoi. Parce que cette espèce de condescendance pour le monde de l'art populaire, je supporte pas. Pour moi, l'art populaire, à la limite, je suis très content qu'il y ait ciné ce soir à Angoulême pour dire « Ah, la foutre de tout ça, tous des cons, on veut pas être récupéré, on veut pas qu'on m'expose, tu vois. » Voilà un mec sain, lui il fait des petits Mickey dans des... Enfin, c'est pas des Mickey, lui il fait du dessin de presse sur des journaux où le papier est pourri, tu vois, où c'est de la bagarre, où t'as des emmerdes avec la police, tu vois, bon. Voilà, ça c'est le vrai art populaire, c'est ça. Et je pense lui, il a compris ça. Mais cela dit, il n'aime pas la BD, c'est dommage, parce que moi j'aimerais bien que la BD reste à ce niveau-là. C'est pour ça que je suis toujours très méfiant dans les festivals, à comment les choses tournent, comment on essaie... moi je cherche à faire un centre consacré à l'imagerie populaire, mais je veux pas faire un musée justement. Moi ce qui me plaît c'est le côté vivant, tu vois. Il y a un endroit par exemple ici, ils ont fait un truc très bien, ils ont mis à disposition tous les livres sélectionnés, tous les albums sélectionnés, tu peux les lire, ça c'est bien, voilà, parce qu'il y a du feuilletage, il y a du... moi je suis de ceux qui défendent des éditeurs comme Soleil par exemple, parce que Soleil, c'est Mourad Boudjelal, c'est un mec, il a commencé dans la vie quand il avait 13-14 ans à acheter 50 centimes des fascicules tout pourris opus, et puis il les achetait 1 euro, un franc, il les revendait 50 centimes. Bien que peut-être ils achetaient 50 centimes qu'ils revendaient un franc, parce que je connais un peu. Mais tu vois, je veux dire, c'est des mecs, ils ont commencé avec la BD, tu vois, bas de casse. Et dans ces fascicules-là, il y avait des BD somptueuses à laquelle jamais Angoulême a rendu hommage. Je pense au Petit Duc de Dévi, par exemple, qui pour moi est une des plus grandes BD de tous les temps. Personne n'en parlait jamais. Calard, je ne sais plus comment s'appelait cet espagnol, j'ai oublié. Tu vois, il y avait des. Et Black Rock. Black Le Rock, moi je connais des gens qui peuvent te parler de Black Le Rock avec autant de science que n'importe quel intervenant ici et pendant des heures. Parce qu'ils savent que l'épisode 327, c'est un autre dessinateur qui a pris le relais, et qui ont un savoir là-dessus. Et moi, j'adore les gens qui ont un savoir très pointu sur des choses qui intéressent absolument personne. Parce que ça, c'est ceux-là qui justement, ont un savoir où il n'y a pas d'intéressement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas pour progresser dans la société, pour faire un bouquin quelque part. C'est le pur plaisir, le pur bonheur. Et André Higuel était le critique parfait de ça, c'est pour ça que je l'admirais beaucoup, parce que lui, il savait tout, et en même temps, il en parlait comme personne, et il en parlait comme, je sais pas moi, André Chastel allait parler des impressionnistes, quoi. Tu vois, c'est ça qui est... Donc, pour moi, il y a une vraie culture populaire, et c'est celle-là qui m'intéresse, et ça m'intéresse pas du tout qu'elle grimpe d'un cran, qu'elle rentre dans d'autres cases de la société, parce que là, elle sera morte. Donc, il faut préserver son authenticité, son côté populaire, moche. J'aime bien les gens qui font des journaux sur du papier pas très bien. Plus grand journal de BD depuis 68, c'est reste Charlie Mensuel, qui était sur du papier journal. Et tu vois, qui gardait ce côté... Alors, les mecs, ils te font des trucs sur du papier glacé, super classe. Bon, c'est le contenu qui doit être fort. Et il vaut mieux un sambot hilarant sur du papier merdeux dans un truc de kiosque de gare qu'une BD hyper luxueuse où le mec il a rien à dire et il l'exprime avec, tu vois, avec beaucoup de couleurs.
C'est vrai que maintenant c'est...
Bon, c'est la même chose des effets spéciaux au cinéma, mais c'est un autre débat.
Et est-ce que la BD, qualité de BD égale, est-ce que tu prends moins de plaisir à feuilleter une BD sur papier glacé qu'une BD sur papier journal ?
Tu sais, cela dit, ça dépend évidemment de la BD elle-même. Mais les dessinateurs autrefois savaient que la qualité de l'impression, qui est évidemment pas du tout celle d'aujourd'hui elle est tellement parfaite, qu'ils savaient que par exemple, quand ils mettaient une couleur précise, elle allait perdre l'impression. Donc ils faisaient leur couleur en fonction de cette perte. C'est pour ça, des fois, quand tu vois les originaux, tu es un peu perplexe parce que tu dis merde, mais c'était mieux quand même dans le journal, tu vois.
C'est comme ça.
Parce qu'ils ont chargé les couleurs pour qu'elles passent.
C'est comme ça qu'ils choisissaient les garde-robes des super-héros, d'ailleurs.
Peut-être, oui. Et puis surtout, souvent, les couleurs étaient faites par l'imprimeur. Mmh. Moi, j'ai des originaux de dessinateurs des années 50 que j'ai achetés avec le calque couleur, avec les indications. Donc, tu sais, tu fais une photocopie du noir et blanc, tu mets les couleurs dessus, tu exposes l'une à côté de l'autre, et les mecs, ils faisaient juste un petit peu de rouge, un petit peu de vert, puis à l'imprimerie, le mec le faisait. Mais sauf qu'il ne faisait pas toujours comme aurait voulu le dessinateur. Et puis tu avais les vrais fous, comme Chino Del Duca, qui lui, quand il faisait ses revues qui, magiques pour moi, que sont L'Intrépide, Aura et tout ça, par exemple dans les BD de Giffé, qui est pour moi le plus grand dessinateur de tous les temps, Giffé il faisait souvent des murs de pierre, tu sais, les gens se baladaient, des murs de pierre dans les rues, et tu avais une pierre jaune, une pierre verte, une pierre rouge, une pierre bleue. Tu sais, mais pourquoi ils colorient comme ça ? C'est uniquement les mecs à l'imprimerie, ils en avaient rien à foutre, ils s'amusaient, ils disaient « Ah tiens, mets le rouge, toi, moi je mets le bleu ». Et ça n'avait aucun sens narrativement ni artistiquement, puisque Giffé c'était un hyper réaliste, tu vois, il n'y avait pas un poil qui manquait au cheval, et alors ça foutait tout en l'air. Et je me demande d'ailleurs comment Giffé laissait faire ça, je ne sais pas, si quelqu'un peut me le dire, si j'écris sa biographie, je serais ravi de le savoir.
Yves, pour clore cette interview et en rapport avec ton engagement politique, tu sais que je t'ai demandé une chose hier, que tu me produises un certificat d'origine bio de ta moustache et des écailles de tes lunettes.
Alors, mes lunettes sont en pétrole, et ma moustache non.
Yves, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps, et je suppose que tu as plein de choses à voir, à fureter, donc je crois qu'on va te libérer.
À cette heure-ci, c'est l'heure où les grands fauves vont boire et non pas regarder des expos. Cela dit, allez voir l'expo Winchlus et regardez les deux films. C'est formidable.
Laisse-moi deviner, c'est les films, c'est l'histoire de Monsieur Ferraille ?
Non, c'est Villemolle.
Ah, d'accord.
Villemolle. Et vraiment, moi j'ai pleuré de rire. Vraiment, c'est chapeau à Vince Tous, c'est ce que j'ai vu de mieux cette année au salon.
Ouais, je me souviens que quand même tu étais comme un fou quand t'as vu l'expo Musée Ferraille. T'avais adoré. Ça,
aussi. C'était un grand moment d'Angoulême. Et cette année, je trouve les expos un peu plan-plan d'une manière générale, intéressante. Hein. J'ai bien aimé celle du Puy Berbérian, bon, etc. J'ai rien compris à l'histoire de la Maison Close. Si quelqu'un peut m'expliquer, j'ai rien vu. Donc
fallait s'approcher de très très
oui,
près.
Mais tu t'approches de très très près. J'ai rien vu, moi. J'ai rien compris. Oui, peut-être, d'accord. Mais enfin, c'est une expo, bon. Et donc, je vais demander à ma copine Chantal Montelier de m'expliquer en rentrant parce qu'elle, apparemment, elle a tout compris.
Tant mieux, Yves. Merci beaucoup.
Eh ben, merci à toi.
Yves Frémion, donc interview enregistrée à Angoulême en janvier dernier. Personnage très attachant, comme vous l'avez pu l'entendre. Personnage qu'on a du mal arrêtez une fois qu'on a lancé sur un sujet. Et par rapport à la précédente interview qu'il avait fait sur laquelle Thomas s'était référé à Actua BD, c'était absolument pas exactement les mêmes propos. Donc ça nous fait plaisir qu'il soit un peu lâché. Je crois que ça va secouer un peu hein, quand on va la retranscrire et qu'on va la mettre sur Actua BD, on sait jamais.
Comment ça, on ?
Pardon. Bonne chance pour retrouver tous les noms, Thomas.
Ouais.
Ceci dit, peut-être que la lecture des papiers nickelés va beaucoup t'aider. Les papiers nickelés, donc une revue trimestrielle uniquement disponible par abonnement, qui est à 6€ l'unité. C'est édité par l'association de préfiguration d'un centre international de l'imagerie populaire, du dessin imprimé et du patrimoine du papier, laquelle vient de fêter ses 10 ans et qui donc tient un peu la suite, je veux dire, du collectionneur de bandes dessinées. Dans ce numéro 22 qui est arrivé dans les boîtes aux lettres cette semaine, il les envoie à la main et tout, donc c'est un vrai plaisir hein, de les recevoir dans l'enveloppe.
À la main, ils font des lancers de papier nickelé.
Ouais. D'ailleurs, au dos, il y a marqué cette revue est imprimée sur le papier 100% nickelé. On sent que là, c'est Frémion qui a foutu sa patte. Dans le numéro 22, des articles très différents et très divers sur le patrimoine de l'imagerie populaire, avec Roland Berecker, qui est un peintre belge au style décapant assez étrange, hélas disparu en juin dernier. L'origine de la carte postale, puisque la carte postale, après tout, est arrivée qu'après l'institution des postes. Mais qui a inventé les cartes postales ? Comment on en est venu à cette industrie ? Pierre Saumier, illustrateur de presse et d'affiches qui oscillait entre humour et réalisme dans les années 30 à 60. Un petit coup d'œil sur l'œuvre la plus gentillée de Sidney, Les Chats, où en fait il dessine des chats avec des jeux de mots, chamarré et tout ça. Et en fait,
c'est original.
Sauf que justement, on est tombé sur les mêmes jeux de mots et à peu près la même utilisation dans une planche du 19e siècle. Heinrich Klee, qui est un dessinateur munichois du 19e siècle au trait fantasmagorique, assez démentiel. Michel Ossou, qui est un spécialiste, un artiste du timbre clandestin. Vous savez, c'est quand on fait des timbres qui ressemblent à des vrais, qu'on les poste, et que le grand jeu, c'est que les postes, ils mettent le coup de tampon dessus, et on se dit « Ouais, ça vaut des sous, maintenant !» Donc, Michel Ossou, qui est un très grand spécialiste là-dessus. Le très cauchemarant de Forster, que l'on a vu aussi bien dans Flic Glacial qu'il avait fait deux bouquins, je crois, dans la collection signée chez Lombard il y a une dizaine d'années. JP et son trait très particulier de ce dessinateur italien. Et René Branton, dessinateur de couverture de romans de science-fiction et de polar dans les années 50-60. Et là-dessus, du sport, il hoche de la tête et il fait oui, je les ai vus forcément.
Fleuve Noir.
Exactement.
Entre autres,
oui, il n'y avait pas que ça, hein, puisqu'il a fait du polar, il a fait plein de choses, il a aussi fait de la bande dessinée. C'est ce que l'on apprend donc dans ce papier nickelé numéro 22, disponible sur abonnement. Honnêtement, si vous vous intéressez à la bande dessinée, je vais dire en tant que consommateur ou en tant que survoleur ou juste sur certains plans, ça ne va pas vous intéresser, hein. Soyons clairs, il y a une notice bio, une chronique mortuaire qui tient deux pages à chaque fois dans cette revue. J'ai appris par exemple qu'un romancier, acteur, spécialiste des nouvelles en occitan qui faisait des nouvelles en occitan à la radio est mort récemment et j'étais pas très loin de chez lui. La Dépêche est bourrée d'informations qui ne m'intéressent pas forcément. Les papiers nickelés, eux, c'est un concentré d'informations qui, eux, m'intéresse justement par ce côté historique et géographique, je vais dire, sur les origines de la bande dessinée, du peuple et tout ça, ce que l'on n'a pas vu, forcément. Ça change un peu, hein, je veux dire, par rapport au manga que l'on parle. Peut-être que ça y sera après, dans les papiers nickelés. Moi, je fais pareil que dans un siècle. Ils nous font découvrir des trucs sur lesquels on est complètement passé à côté et qu'après, on va trouver ça absolument génial, mais 30-40 ans après la mort de l'auteur. Et plein de choses comme ça. Les papiers nickelés, donc le numéro 22, est arrivé. Et c'est uniquement sur abonnement. Cherchez papier nickelé, ne pas confondre avec les pieds nickelés, dont de nouvelles aventures sortent actuellement chez Vent d'Ouest. Alors c'est assez amusant de voir Ribochard et toute la bande avec leur argot des années 50 sortir de prison maintenant et faire leurs 400 coups. C'est chez Vent d'Ouest, mais là c'est vrai, c'est autre chose. Donc voilà, les papiers nickelés, pour en revenir, c'était à l'occasion de l'interview d'Yves Frémion. Malheureusement, comme il est de gauche, député vert, il faut que je passe quelque chose de nettement plus à droite. Temps de parole oblige donc les rois de la Suède pour leur premier single. Vous écoutez le supplément week-end numéro 215 sur Radio FMR.
À l'aube de la fin du 19e siècle, les grands penseurs face à la révolution industrielle imaginent que le prolétariat doit s'unir pour lutter contre le grand capital.
Un jour est né le socialisme pour contrer le conservatisme, pour mettre sa race au capitalisme et niquer bien profond l'impérialisme. Au plus puissant que le Jésus-Christ, un putain de beau jour se pointe à le socialisme.
Non, il ne récuse pas la libre entreprise du petit patronat. Il n'est pas lardise avec une régulation saine. Il évite les crises, il chie sur la spéculation et la roublardise. Et toi, paysan des villes, rentre dans la ronde. Sauve les profits mercantiles et viens sauver le monde. Femme de ménage au foyer, tu n'attends plus rien. Tu penses que ta vie c'est de la merde depuis que t'as trois gamins. Mais non, le socialisme va donner plein de trucs bien. Par exemple, un pince parlant de Lionel Jospin. Et si jamais un jour tu as très très faim, regarde-le et tu auras moins faim.
Socialisme, 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 socialisme.
Les yeux dans les yeux, regarde-moi, socialisme. Donne-moi la force d'avancer, force de progrès, force d'altruisme.
Le socialisme est trop beau, oui, pour être vrai. Le peuple pourrait, s'il en France, cesser d'être exploité.
Écoute la voix des sages, colle ton oreille sur le coquillage de l'histoire.
Partager avec les pauvres, mais que sont ces idées?
Des idées pour partager,
mais si je veux tout garder.
Tu seras plus heureux dans le partage.
Oh oui, je suis heureux, le socialisme a gagné. Le socialisme donne des ailes, le socialisme donne une quatre ailes. Oh oui, je suis heureux, je vais en voir être mort.
J'aimerais tant être socialiste, mais j'habite en ville. J'aime pas trop vos manifs, moi je suis quelqu'un tranquille. J'ai peur de niquer mes bras d'acquis, mon côté 2000. Et je suis pas fan des merguez, ni des gens qui s'enfuient. Il te faut alors porter une veste en velours, des lunettes allongées, une écharpe autour. Aller dans les marchés, acheter des paniers bio et dire à tous tes potes, il faut payer plus d'impôts.
Socialisme, 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 socialisme.
La confiance d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Avec toi, mes dents sont saines et mes gencives repoussent. Avec toi, la vie est force de caractère, mais fondante de goût.
Socialisme.
Au secours. Les rois de la Suède avec derrière, ils vont avec Annie des Fatal Picard et Monsieur Poulpe qui se rend dédicace au TGS sous l'étiquette de Nerds et qui fait le scénario d'une nouvelle série sur M6, de deux nouvelles séries puisqu'il
co-scénarise.
Il est au scénario, il participe à Caméra Café la nouvelle saison et à Scène de ménage.
Ah, il y a Caméra Café qui ressort.
Oui. Il a annoncé. Donc voilà. Et un troisième larron qu'ils ont pris au hasard, je crois. C'est juste pour leur apprendre à faire wesh wesh. Puisque si je me trompe, c'est tourné dans les beaux quartiers à Paris. Dus, ma foi, on était dans les illustrés populaires, plutôt
les
pulp et tout le reste.
C'est pas du pulp, hein, c'est quand même presque du papier glacé là.
Prendre un coup de fil de Monsieur F de Paris qui va nous engueuler.
Non, je vous en parle vite fait parce que bon, d'habitude je n'achète pas le X-Men, le X-Men classique, Uncanny oui. X-Men.
Et puis bon, il y a Emma Frost en couverture, voilà. Alors ça va alors.
Mais déjà, Emma Frost en couverture dessinée par Yannick Paquette, ça le fait, hein, on peut le dire, ça le fait. Mais après, quand on a un premier épisode qui concerne Charles Xavier. Alors, si on revient un petit peu en arrière, là, on se rappelle que Charles Xavier, il s'est pris une balle dans la gueule.
Oui, il est mort.
Il est mort, hein.
Oui.
Hein, c'est Bishop qui l'a dégommé et tout. Eh ben non. Il est pas mort et en plus, il marche de nouveau, quoi. Tu vois.
Oui,
et
là, dans cet épisode, il marche plus.
Et là, dans cet épisode, il va. C'est en fait un. Pratiquement un huis clos entre deux personnages, Charles Xavier et le fléau qui était
son
passé.
Son demi-frère.
Voilà, son demi-frère. Qui était passé du côté obscur au côté clair de la force. Et qui là a l'air de vouloir revenir au côté obscur de la force. Ah. Parce qu'il trouve que il est moins bridé. Je parle du fléau bien sûr, quoi. Et Charles Xavier va essayer de le mettre, de le faire changer d'avis. Dessiné par un certain Phil Brion.
Oui, qu'on a un dessinateur français, n'est-ce pas?
Oui,
donc,
qui est
c'est pour ça que j'en parle en fait. Hein.
Spécialiste du lapin.
Voilà, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Hein, c'est parce que ce premier épisode est illustré par Phil Brion. Ensuite, on a un autre épisode de Young X-Men, Mark Guggenheim au scénario, qui a donc laissé tomber un petit peu Spider-Man, hein, parce que Mark Guggenheim, c'est quand même le type qui, dans toute la saga Spider-Man actuelle, depuis le Brand New Day, même avant. Mais c'est lui qui chapeaute un petit peu le travail de tous les scénaristes qui sont attelés à faire vivre Spider-Man. Donc c'est lui qui est le garant, on va dire, avec d'autres, hein, mais c'est lui le patron quand même. C'est le garant de la continuité historique de Spider-Man. C'est-à-dire, c'est lui qui dit « Ah bah non, ça tu peux pas le faire parce que Spider-Man, dans l'épisode de l'année 84, il a fait ci, donc c'est pas possible et tout. Ah ça tu peux le faire, oui bien sûr. Oui, tu veux dégommer celui-là? Oui, pas de problème, vas-y. » Enfin, c'est un petit peu son boulot. Et là, Guggenheim, justement, on l'a appris il y a pas si longtemps que ça, a laissé tomber un petit peu, quoi, cette espèce de rôle de papa Spider-Man, on va dire, hein, pour justement scénariser d'autres super-héros qui lui tenaient un peu plus à cœur. Dans l'épisode consacré à Emma Frost, c'est pas mal, c'est sympa parce que Emma Frost, on jongle entre le passé et le présent. Emma Frost, dans le passé, eh bien, c'était une super vilaine, bien sûr, hein, repentie, qui rejoint l'école du professeur Xavier,
qui va mettre Cyclope en émoi.
Voilà, hein, qui va se chauffer un petit peu avec Cyclope. Mais là, dans cet épisode précis, Emma Frost, on revient un petit peu en arrière quand Emma Frost faisait partie du club des damnés. Haha, avec Sébastien Show avec Namor, avec Loki.
Ouais, les damnés quoi.
Ouais, les damnés quoi. Vraiment les. Enfin, vraiment les. Hein, et où Emma Frost, eh bien justement, quoi, va jouer double jeu par rapport à Sebastian Shaw. Officiellement, c'est sa petite copine et tout. Mais elle va essayer de conquérir le cœur de Namor et tout pour que Namor, justement, s'abaisse, c'est ses propres termes, à rejoindre le monde de la surface et à faire partie intégrante de ce club des damnés. Et donc, ça va être plus ou moins la magouille et tout. Mais par contre, illustré par une Emma Frost qu'on aime bien voir dans ses postures assez agréables, on va dire.
Attends, pas si vite, je vois rien.
Pas si vite. Pas si
ah
vite,
oui, oui, d'accord.
Non, mais il y en a beaucoup, il y en a pas
on
mal.
On comprend, oui.
Tu vois, tu comprends, quoi. Et il y a une espèce de chassé-croisé.
Une Anna qui est fière de son corps et qui le montre.
Ouais, et il y a une espèce de chassé-croisé amoureux entre Emma Frost et Namor, qui vraiment vaut sans besoin de cacahuètes hein, dans cet épisode. Donc c'est pour ça que je tenais à le citer. Donc tout ça, c'est dans le nouveau X-Men 154, hein, le numéro du mois de novembre. Et je vous rappelle qu'on est rentré dans le règne noir, le Dark Reign. Pourquoi ? Parce que bon, Tony Stark, il a été dégagé du Shield, et maintenant le patron du Shield, c'est Norman Osborn, et qui a décidé de refaire vivre le club des damnés sous un autre nom, parce que ça s'appelle la Cabale.
Super ! Bon, allez, un petit peu de fête, un petit peu de joie, un petit peu de bonheur, un petit peu de rêve, un petit peu de malédiction. La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono sur Ampar.
Thomas.
Eh oui, aujourd'hui on retourne dans l'univers carcéral. Non, je déconne, c'est fini. Non, c'est fini, les prisons, là, on va abandonner un peu.
Attends, on a eu notre dose, là, merci.
Voilà, donc aujourd'hui, on parle d'un retour et d'un on parle d'un retour et d'un départ. Donc, l'imaginarium du docteur Parnassus de Terry Gilliam avec celui qui est parti, S. Ledger, avec aussi Christopher Plummer, Verne Troyer, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell, Lily Cole et Tom Waits. Ok, bon, ça va, hein. Alors, à bord de la roulotte sortie d'un temps ancien, la troupe du docteur Parnassus propose à ses spectateurs moyennant finance d'embarquer dans leur propre imaginaire en traversant un miroir. Magie ou supercherie ? Bon, la troupe composée d'un être minuscule, du vieux chef porté sur la boisson, de sa fille Valentina et du jeune Anton amoureux d'elle, va rencontrer un homme mystérieux au passé trouble, Tony Shepherd, incarné par Heath Ledger, pendu sous un pont et pourchassé par des Russes. Mais peu de gens savent que Parnassus a autrefois passé un marché avec le diabolique Mr. Nick, gros parieur à la recherche d'âmes. Évidemment, le Mr. Nick, c'est le diable en personne, et donc le film est un aller-retour entre les différents paris que Parnassus va faire avec lui et les résultats. Alors, de toute façon, ce qu'on peut dire avec ce nouveau Terry Gilliam, c'est un peu ce qu'on pouvait dire aussi sur les frères Grimm, qui était un peu... Celui-là, il était un peu fadasse. Le Parnassus relève un petit peu le niveau, mais c'est vrai que c'est un condensé de l'œuvre de Terry Gilliam dans son ensemble. Il s'agit de son premier scénario original depuis Les Aventures du Baron de Munchausen, donc c'est vrai qu'il y a des similitudes entre les deux. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu tout ce qui a fait que les gens ont aimé l'univers de Terry Gilliam. Il y a des déclarations d'amour à l'imaginaire de tout poil, une fascination pour les univers foutraques faits de bibelots et d'accessoires usés, des mises en scène de décors féeriques avec le sable, plage, falaise, forêt, les ponts, voilà. Tendresse pour des petites gens et les clochards, dans Fisher King notamment, les attachements pour des gentils fous et les illuminés, bon voilà, tout ça c'est les obsessions et les centres d'intérêt de l'ancien Monty Python, bon on les retrouve à fond là-dedans, donc là il n'y a pas de surprise.
Toute sa filmo en fait a toujours eu plus ou moins les mêmes éléments, hein. C'est voilà. Vraiment un réalisateur typique comme Jeunet, Caro et tous les autres qui ont vraiment leur univers. Ils essaient de remettre à chaque fois.
Il y a peut-être Las Vegas Parano qui est un petit peu à part, moi je trouve.
Voilà.
Parce que c'est une adaptation pure et dure, enfin pure et dure, entre guillemets, du bouquin de Thompson.
Tout à fait. Alors, le film, on l'a assez dit, hein, mais il était plombé par le décès d'Heath Ledger, donc il a fallu trouver comment finir le tournage, puisqu'il n'avait pas fini ses scènes, mais on est quand même surpris, enfin moi en tout cas, de voir Heath Ledger aussi présent dans le film, puisqu'il avait quand même bouclé pas mal de scènes. Et alors, comme l'histoire, c'est justement le fameux miroir qui fonctionne quand le docteur Parnassus se met en transe, donc les gens entrent dans le miroir, un seul à la fois, parce que sinon, les univers fait... du fantasme des gens qui y vont entrent en collision s'il y en a plusieurs, donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui entre dedans, donc c'est lui-même qui en fait qui fait son univers, etc., qui s'évade. Et là c'est vrai que à chaque fois que donc le personnage d'Heath Ledger franchit le miroir, donc il est incarné dans l'autre monde par un acteur différent. Donc c'est vrai que on aurait pu dire bon allez, bah, prendre trois acteurs différents, on va dire tiens allez, on fout encore plus d'acteurs pour rendre hommage. Donc évidemment c'est Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell. Sauf que
ah oui quand même.
Oui, il a pas pris les plus moches, voilà. Mm. Et après c'est vrai que chacun en fait illustre. En fait si tu veux dans le film, au départ on ne sert absolument rien du personnage et puis au fur et à mesure on en apprend un peu plus sur son passé. Au départ on le devine gentil filou, un peu arnaqueur, après on s'aperçoit qu'il a une facette beaucoup plus sombre, et c'est vrai que les différentes incarnations de son personnage dans l'autre monde en fait illustrent à chaque fois la progression dans la vraie identité qu'on connaît au fur et à mesure de lui. Donc d'abord on a Johnny Depp qui est plutôt malicieux, joueur, donc c'est vraiment Jack Sparrow dedans, le gars on sent qu'il prend plaisir à jouer le personnage. Ensuite on a Jude Law, lui plutôt charmeur, lumineux, bon lui c'est plutôt l'aventurier un peu flegmatique et tout, et à la fin ben, quand on découvre un peu plus l'aspect sombre et un peu l'aspect bad guy on va dire du personnage, donc c'est Colin Farrell, donc petite frappe irlandaise, vraiment le côté je suis un peu un bad guy en même temps et ça se porte sur lui, donc bon c'est quand même, le choix est assez logique hein. Et sinon, après l'autre fil rouge du film, hormis la découverte de l'identité de Tony Shepherd, en fait, c'est la relation entre Parnassus et sa fille, puisqu'en fait le film raconte juste l'histoire du Parnassus qui n'arrive pas à se faire l'idée que la fille puisse le quitter. Donc on apprend que sa fille, son existence même a été vendue au diable avant qu'elle ne naisse, puisqu'il a passé un marché de dupes avec lui. Donc c'est tout ce background aussi qui va décider de la relation entre les deux, qui est assez intéressante. Graphiquement, donc tous ceux qui connaissent l'univers de Terry Gilliam, ça fait partie des réalisateurs dont quand tu vois quelques plans, tu sais que c'est lui ou pas quelqu'un d'autre.
Et c'est vrai que lui, c'est pas par le traitement d'image qu'il le fait, c'est vraiment par la manière de dessiner, quoi, puisque c'est littéralement un dessinateur de pellicule.
Oui, voilà, comme tu as dit, oui, en plus c'est lui qui dessine.
Parce que je parlais de Jeunet, mais Jeunet, en fait, on le reconnaît par les traitements de couleurs qu'il le fait.
Traitement de couleurs, le fait de coller au plus près de ses comédiens, de prendre des gueules aussi. Alors c'est vrai que Gilliam, il se caractérise aussi par le choix de ses fameuses contre-plongées dantesques. Les goûts aussi pour les gros décors avec des toiles trouées, enfin beaucoup de briques et de brocs avec des plans qui sont surchargés jusqu'à la gueule, même jusqu'au background. Et c'est vrai que là, donc il y a une cohabitation quand même, ce qu'il avait fait aussi sur les frères Grimm, cohabitation entre le numérique et le physique. Et c'est vrai que même quand il fait du numérique, bon, de toute façon, on va toujours plus apprécier les effets physiques, mais même dans le numérique, il y a quand même un ajout de texture et d'aspect bricolé qui n'est pas si inintéressant finalement, puisque ça cohabite assez bien. L'utilisation numérique en général, par définition, elle prête un peu à gerber, mais là c'est vrai que ça passe plutôt bien. On va quand même préférer encore une fois les effets physiques, parce que c'est vrai que la première incursion de l'autre côté du miroir, elle est super bien, puisque c'est au départ une introduction, tu connais rien de la troupe, c'est juste un gars bourré qui va s'inviter sur la scène du petit théâtre itinérant et qui va passer à travers le miroir à la grande horreur de tous les autres qui n'avaient pas prévu ça, et donc ils se retrouvent dans une forêt derrière avec les arbres, en fait ce sont juste des silhouettes, et justement c'est le côté joueur qu'on retrouve plus après dans le film, c'est vraiment du numérique, mais là ça fonctionnait assez bien. Donc voilà, la cohabitation entre les deux, ça, c'est assez correct. Le film malheureusement n'évite pas certaines longueurs. Ce qu'on pourrait reprocher au film, c'est un petit côté froid et un certain manque d'émotion, puisque enfin moi en tout cas je suis pas j'ai pas plongé en fait à fond dans le film, j'étais plutôt spectateur. On sent vraiment que Gilliam a voulu se faire plaisir au niveau visuel.
D'autres qui y sont rentrés vraiment à fond, hein. Je peux te dire qu'Enflammée, elle arrivait pas à en parler.
Ah bon, ben...
voilà.
Mais je pense que ce sera intéressant de voir comment le film sera perçu après la deuxième vision, puisque le film sème des indices, tu ne prends conscience de certains enjeux qu'à la fin. Donc c'est vrai que revoir le film, on va voir si il prend de la valeur avec le temps ou non. Moi, voilà, c'est ce que je reprochais au film, c'est voilà, un petit côté froid, une volonté un peu trop affichée de mettre de l'effet de partout et justement faire un condensé de tout l'univers guillamesque au détriment un petit peu de Roland d'émotion comme on pouvait avoir dans Fisher King avec la tendresse pour les clodos et tout. Là, c'est vrai que bon, on y perd un petit peu. Et bon, alors voilà, donc cet imaginarium du Dr Parnassus s'adresse avant tout aux fans de Gilliam. Le film n'est pas loin de la sortie technique puisqu'il passe pas dans toutes les salles. J'avais dit hier en off à Xavier que j'allais essayer de me renseigner sur le nombre de cinémas qu'il passait à Toulouse. J'ai pas pensé, désolé. Donc, je sais en tout cas qu'il passe à l'UGC et pas du tout au Gaumont. Donc voilà, finalement, comme je disais, le film, personnellement, ne m'a pas touché à fond. Et pour ma part, je pense que la dernière fois finalement que Gilliam nous a touché, c'était assez dépend dans Lost in La Mancha, où on voyait vraiment, il faisait la peine à voir le pauvre. Et voilà, donc l'imaginarium du Dr Parnassus est sorti mercredi dernier, ça reste quand même de la très bonne facture, hein. C'est quand même extrêmement intéressant à aller voir, et puis ne serait-ce que pour le dernier rôle d'Heath Ledger, pour le casting et pour quand même l'univers de Gilliam, même si il devient vieux et qu'il se répète un petit peu, ça reste quand même du lourd, hein. Ça reste quand même du très bon. Donc je vous le recommande. Donc l'imaginarium du Dr Parnassus, dernier tir Gilliam, qui est dans toutes les bonnes crèmeries.
Ouais, moi ce que j'ai remarqué en fait, juste à voir la bande-annonce du film, c'est que picturalement, visuellement, Terry Gilliam, au niveau de ses mélanges, au niveau de ses collages, revient un petit peu à la base, c'est-à-dire qu'on retrouve pas mal de ce qui avait fait justement l'univers pictural des Monty Python au début, ces collages et tout, qui était justement l'œuvre de Gilliam. Gilliam est un petit peu la pièce rapportée dans la troupe des Monty Python, parce que Gilliam est l'américain alors que les autres sont des anglais, et Gilliam c'était le mec qui était responsable uniquement des trucs visuels, c'est-à-dire qu'il n'intervenait pas trop au départ dans les sketchs typiquement anglais des Monty Python, mais c'était lui qui illustrait tous ces sketchs-là, et ces illustrations-là, cette espèce de collage, on se rappelle,
les soleils qui rient, l'univers visuel, les génériques en dessin animé en général.
Cet univers très particulier, on le retrouve justement dans ce dernier film. Moi, il y a certaines scènes qui m'ont vraiment flashé, qui m'ont dit putain, merde, ça y est, il revient au départ, il revient à la source en fait. Et picturalement, vraiment, ça pète, il n'y a pas de problème, c'est nickel.
Ah oui, c'est clair que les différents voyages à travers le miroir, tu as des espèces de montgolfières géants qui sont des têtes de gars, donc c'est Munchausen, la lune de Robin Williams, c'est pareil.
C'est
vrai que tu as du collage, mais c'est vrai que pour ceux qui ont aimé justement ces petits dessins animés, le passage notamment de Sacré Graal où ils affrontent un dragon parce qu'ils n'avaient pas les effets spéciaux pour le faire en vrai, c'est vrai que cet aspect un petit
qui
peu...
Qui se termine quand même où le dragon disparaît tout simplement parce que l'animateur meurt d'une crise cardiaque.
Oui, voilà, le dessinateur. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que ce côté fait de briques et de broc, avec le passage numérique, tu le perds un petit peu, mais c'est vrai que l'esprit y est quand même.
Et pour terminer la partie cinéma, et ben de suite notre chronique sur le film 2012. Ce film est une bouse. Voilà, ça rime.
Non, mais je pense que Xavier, le seul de l'équipe, a chroniqué des trucs qu'il voit pas.
Ouais.
Non, JB l'a fait plus d'une fois.
Oui, mais JB, c'est le Joker.
JB, c'est JB.
Voilà.
Et il est mort, et il est pas là. Et comme les absents ont toujours tort. Sigur Rós, O Pipola, extrait de l'album Tac.
We'll be right back.
Sigur Rós au Pipola, extrait de l'album Tak, et désolé par avance sur ma très mauvaise prononciation de l'islandais. De suite encore du film.
Ah ouais, ouais, non.
Encore
mais...
au cinéma.
Non, mais oui, encore au cinéma, mais non, bon.
Mais Duce est un spécialiste des animaux ici.
Ouais. Un film avec le chat des
dans
animaux.
Le chat dans l'espace.
Non, pas le chat dans l'espace, qu'on ne verra après, peut-être jamais en salle. À moins que les programmateurs d'Extrême Cinéma.
C'est Extrême Cinéma ce mois-ci d'ailleurs.
Oui, bah c'est du 17 au 21 novembre, d'accord, c'est-à-dire le week-end prochain.
Ok.
Et a priori, on avait des places à faire gagner, mais bon, je crois que l'info n'est pas passée. Mais enfin, bon, c'est
sympa,
pas
merci.
Bon, ok. non, alors pour parler de Mission G, c'est la production Bruckheimer qui s'allie donc avec je sais plus qui, je crois Disney, me semble, quoi, pour sortir ce Mission G. Alors l'histoire est très simple, c'est une bande de rongeurs, des cochons d'Inde, qui font partie d'une espèce d'expérimentation créée par un scientifique, hein, qui a décidé qui se dit qu'il peut recycler pratiquement tous les animaux et leur faire remplir des missions précises, hein, ce qui se passe déjà dans la vraie vie, hein, d'ailleurs, hein, les pigeons voyageurs, qui participent également à des missions d'espionnage, des trucs comme ça. Seulement, le truc qui se passe, c'est que lors de leur première mission, ils plantent. Et donc, ce qui devait être leur billet d'entrée dans la prestigieuse organisation qu'est le FBI, eh bien, s'achève lamentablement. Et donc, eh bien, les exécutifs du FBI décident de dissoudre l'équipe carrément. Et eux, eh bien, vont se retrouver carrément être mis au rebut dans une animalerie carrément. Et donc, vont essayer de renverser la tendance pour intégrer cette fameuse organisation qu'est le FBI, et pour ceci, eh bien, ils vont essayer de rattraper leur connerie du début. Bon, voilà, le pitch est très simple, c'est du Bruckheimer, alors ne vous en faites pas. Bruckheimer, qui même dans ce film a réussi à caser des chutes de Transformers, parce que le robot méchant à la fin, qu'on voit à la fin et tout, quoi, si c'est pas un Transformer, moi je sais pas, quoi. Enfin, mes enfants, c'est ce qu'ils en ont pensé, hein. Oh mince, un Transformer. Bon, j'ai dit bon, d'accord.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'explosions?
Un petit peu, pas tant que ça, quoi. Mais enfin, bon, ça va. Alors, du côté des gags, des vannes et tout, quoi, bon, ça fait rigoler, mais un peu, pas trop. Hein, on se pisse pas dessus de rire, hein, que ce qu'on soit adulte ou enfant, hein, ça je tiens à le préciser. Mais par contre, ce que j'ai relativement apprécié, à mon corps défendant, parce que j'avais pas demandé à aller voir ce truc-là, c'est le traitement 3D. Hein, on sait qu'il y a plusieurs films comme ça, quoi. On a vu L'Âge de Glace 3, qui est également proposé en version 3D. Là, Mission G, c'était soit en 2D, soit en 3D, c'est-à-dire le truc, vous rentrez, on vous file les lunettes, et puis ça marche bien. Alors moi, j'en étais resté à une très ancienne version des films avec en 3D.
Le coin rouge, le coin bleu.
Avec le rouge et le... Non, c'est pas rouge et bleu, c'est rouge et vert.
Vert, oui, c'est un
alors,
truc
avec un vert et un autre.
T'as raison, parce qu'en plus c'était la version Technicolor la plus économique à.
Voilà, ouais. En plus, c'était des espèces de lunettes en carton et tout. Et le problème ne se posait pas trop pour des gens qui sont bien voyants, mais pour les gens qui sont un peu malvoyants, donc portent des lunettes, le problème a toujours été de savoir s'il fallait mettre les lunettes devant les verres ou derrière les verres pour que ça tienne la durée d'un film et tout. Ça a toujours été galère, ce truc là et il est vrai que dans le temps, quand on nous proposait des films en 3D, ça ne concernait que, on va dire grosso modo, 10 minutes voire un quart d'heure de l'ensemble de la durée du film qui était vraiment animé en 3D, qui vraiment avait des effets qui avait un rendu vraiment nickel, quoi. C'est-à-dire 3D, t'avais l'impression que bon, bah, les objets ou les bestioles ou les personnages sortent de l'écran, carrément se rapprochent à 50 cm de ta figure. Là, le système est un petit peu différent, les lunettes sont polarisées de manière tout à fait différente, c'est le nouveau système.
Ouais, alors, attention, il y a 5 systèmes différents actuels, oui, oui. Et toi, tu as eu celui avec les versions à lunettes polarisées dites actives.
Voilà.
Il y en a 5.
Oui, oui. Ouais. Parce qu'avant, il faut savoir que quand tu regardais un film avec les lunettes vertes et rouges et tout, si tu enlevais tes lunettes, le film était pratiquement inregardable parce que tu avais une image qui était décalée, une image en double, tu sais, légèrement décalée comme ça. Enfin bon, tu pouvais pratiquement rien voir, c'était vraiment pas très très intéressant de regarder le film sans les lunettes. Par contre, avec ce nouveau système, je remarque que on peut voir le film sans lunettes. Il y a une espèce de léger flou, mais qui ne nuit pas trop. On va dire, ouais, bon, c'est une copie qui est pourrie et tout, et puis basta, c'est tout, quoi, ça se laisse regarder. On regarde les films n'étant plus pourri que ça.
C'est surtout fait pour éviter les camcorders, vous savez, les mecs qui enregistrent les films, voilà, pour mettre sur net.
Ouais.
L'activité stupide par excellence.
Mais par contre, il faut dire que là, l'effort sur la 3D qui a été apporté sur ce film est relativement impressionnant. Parce que ça fonctionne pratiquement durant toute la tournée, durée du film. Et pas uniquement pour des effets qui se veulent spectaculaires, des effets choc, hein, c'est-à-dire t'es dans une grotte et tout, d'un seul coup t'as des chauves-souris qui te tombent sur la gueule. Tu vois, comme dans par exemple le Dracula et Frankenstein de Andy Warhol, de Paul Morrissey. Mais même des plans tout à fait simples et tout, l'utilisation de la 3D ne s'impose pas forcément, mais on montre qu'on maîtrise bien la technologie et que ça marche vraiment à fond les manettes, hein. Même quand t'as des plans simples de gens qui causent l'un en face de l'autre et tout, la 3D est vraiment bien rendue et tout. Après, y a toujours les petits effets qui nous font voir des petites bestioles, la mouche qui fait partie de l'équipe, hein, de Mission G, qui vole pratiquement autour de ta tête et tout. Enfin, c'est vraiment très très bien rendu de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Il faut reconnaître quand même que la technologie a fait beaucoup de progrès et que maintenant ça vaut quand même le coup d'aller voir un film en 3G. Bon, on n'allait pas voir Mission
en
G. Pas voir Mission G parce que c'est le mauvais exemple. Parce que vraiment, au niveau du scénario, c'est vraiment bateau, hein. C'est un espèce de scénario qui ferait un demi-épisode de série télé. Pas plus, hein, vraiment, quoi. Déjà vu, déjà rebattu 50 fois, sans problème. Les gags, il y en a quelques qui sont relativement potables, mais le reste du temps, c'est quand même assez lourd, faut dire ce qui est, quoi. Mais quand même, la 3D, allez-y, ça vaut le coup et tout, quoi. Et essayez, ça vaut le coup, d'essayer de toute façon, quoi, pour voir ce que ça donne, pour voir au niveau technologique si ça vaut vraiment le coup d'avoir des trucs en 3D, quoi. Parce que dans le temps, effectivement, ça coûtait très cher, donc on accordait la 3D qu'à certaines parties du film. Voilà. Donc pour Mission, je crois que c'est encore à l'écran, hein, il me semble. Hein,
je sais pas.
Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti celui-là, mais je pense que c'est encore à l'écran. Donc, mais uniquement en 3D, quoi. C'est ça le truc. Bon, parlons de télé à présent avec. Avec une série inédite qui déboule, qui a l'air vraiment excellente, vraiment très très bien, vu le pitch.
Sur NRJ 12
W9, mais par contre qui va être en totale concurrence avec Dollhouse, vu que c'est jeudi prochain à 20h35. Ça s'appelle Harper's Island. Alors ça a été initié par John Turtletaube. Ah ah, ça te dit quelque chose?
Oui, Rasta Rocket.
Entre autres, hein, John Turtletaube, réalisateur Disney,
oui.
Hein, au départ. Et qui là nous propose ce pitch de Harper's Island. Le pitch très simple, c'est l'histoire de Henry Dunn, interprété par Christopher Gorham, qu'on a vu dans Jack 2-0 et qu'on a vu également. C'est le copain de... Ugly Betty, bien sûr. Il est méconnaissable, hein. Tu sais, c'est le secrétaire avec les lunettes là. Regardes pas Ugly Betty.
Non.
Bon, ok, d'accord. Donc Christopher Gorham.
T'es mal tombé, on est des garçons.
Voilà.
Déconne, je l'ai vu.
Alors Henry Dunn, lui, interprété par Christopher Gorham, lui, il va donc, il est d'une condition assez modeste et tout, et il va se marier avec Trish Wellington, interprétée par Kathy Cassidy, qui elle est la fille de Thomas Wellington, un riche homme d'affaires, hein, qui possède pratiquement la moitié de la ville et tout, enfin qui est pété de thunes, interprété par Richard Burgi, Sentinelle. Et donc les noces vont avoir lieu à Harper's Island, c'est une île qui est au large de Seattle et qui appartient aux Wellington. Mais, et c'est là que ça se corse, un tueur très sadique va commencer à dégommer les convives un par un.
Tu veux dire que c'est un serial killer ?
Alors, c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est une série qui comporte 12 épisodes. Il n'y aura pas de deuxième saison, c'est normal.
Et ils sont
en fait, le truc basique de Harper's Island, c'est que c'est une série d'horreur comme un film d'horreur de série B. C'est-à-dire, ok, t'as le killer hein, qui va dégommer tout le monde et on va aller chercher à savoir qui est ce fameux tueur sadique. Donc, alors au départ, ça apparaît vraiment benet, on va se dire, bon, ok, quoi, une fois que t'as vu le traitement, bon, les crimes sont, paraît-il, bien trash, bien gore, hein, quand même, hein, c'est du moins 12. Hein, pour une série, donc ok, ils ont dû dépoter quand même pas mal, mais par contre, ce qui est nettement plus intéressant, c'est de savoir dans quel est le contexte qui a été choisi, et c'est là que bah, justement Turtle Taube a fait vachement fort, parce que eh bien, on est plongé carrément dans un monde où pratiquement tout le monde mérite de crever, et où le spectateur va commencer à avoir de l'empathie, voire de la sympathie pour le tueur. Avoir dégommé tous ces espèces de fils de pute et ces espèces de connasses bimbo siliconées qui en ont qui ont un grain de poivre à la place de la cervelle et tout. Le père, bien sûr, Thomas Wellington, qui est une enflure finie, un enculé de première, hein, c'est normal, hein, un riche homme d'affaires et tout. Et après, bien les deux protagonistes qui sont là, qui s'aiment et tout. La seule parcelle de pureté qu'il peut y avoir dans cette série qui s'appelle Harper's Island. Donc, quelque chose qui a l'air très très alléchant, comme ça, hein, sur le papier, et qui nous fera peut-être être devant nos postes jeudi prochain à 20h35 sur W9. Ça s'appelle donc Harper's Island. Sinon, dans un registre complètement différent, mais c'est également jeudi, alors je vous laisse le choix quand même, hein, jeudi prochain, c'est Harper's Island sur W9. C'est bien entendu Dollhouse sur Teva. Hein, très très bien, Dollhouse, hein, non, franchement, quoi, j'avais pas vu les 4 premiers, mais là, ceux de l'avant-hier soir, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Faut se faire au départ au jeu un petit peu monolithique, mais c'est le personnage qui veut ça, de Elisa Dushku, qui joue une poupée, hein, donc automatiquement au départ, elle a pas tellement d'émotion sur son visage. Ok, hein, c'est vraiment très monolithique comme expression, mais au fur et à mesure, ça se débloque un petit peu.
Non, c'est justement parce que dans les premiers épisodes, ils la font jouer successivement plusieurs rôles et tout, et là tu dis, oui, il y a quand même une sacrée palette. Hein.
Ouais, non, mais la palette quand elle est en action. Mais quand elle est pas en action, je veux dire, la coquille
vide. Par contre, 4 épisodes d'un coup, c'est
trop. C'est ce qui arrive également avec Harper's Island, hein, où il y a 3 ou 4 épisodes, hein, dans cette soirée, hein, jeudi prochain, quoi. Donc il va falloir préparer le café, sandwich et tout le bordel. Alors, dans un registre complètement différent, jeudi prochain également, mais c'est sur TF1, c'est un téléfilm de Didier Albert, inédit, qui s'appelle Otage. Avec le retour, enfin, il est là, tu vois, on l'a viré comme un malpropre quand même, ce mec. Et pourtant, quoi, c'est lui qui a fait les beaux jours de TF1 pendant des années, des décennies carrément. On l'a viré comme un malpropre. Et là, il revient par la petite porte et tout.
Et puis,
mais non, Yves Régnier, bien sûr, commissaire Moulin.
Et merde.
Alors, il ne joue pas le rôle du commissaire Moulin, mais par contre, il est dans cette affaire de prise d'otage. Eh bien, c'est un flic collègue de Estelle Lefébure. Ah oui, première apparition d'Estelle dans un rôle principal sportif et tout. Il joue le rôle de flic, donc ça va le faire. Il y a également Didier Cauchy et Nadège Bosson-Diagne, qu'on avait vu dans cette autre série sur France 2 qui parlait des douanes, là, série avec les douanes et tout ça, quoi.
Trafic.
Non, pas du tout.
Pas mal.
Ok, donc c'est Otage et c'est jeudi prochain également sur TF1, 20h35. Sinon, le full frontal de ce soir.
Alors, je vais dire du foot et du western.
Ah ben non, western sur TF1, t'étais trop petit quand il y avait du western.
Alors, j'irai. Tantan.
Non, pas du tout. On va commencer par ce soir, par un petit Horatio.
Ah ben si, je l'ai. Si.
Mais par contre, la première partie...
J'ai chanté la bonne version, alors.
Oui, la première partie, est plus ou moins sans intérêt parce que ce sont des épisodes de CSI Miami qui se suffisent à eux-mêmes. Mais par contre, à partir de 22h15, c'est-à-dire après la première mi-temps, à 22h15, eh bien, on nous propose un crossover entre Miami et Manhattan. J'en avais parlé la semaine dernière.
Oui, il avait déjà été diffusé. Ouais.
Voilà, alors, il y a un deuxième crossover que je ne connaissais pas, hein, parce que le crossover qui a comporté à installer Manhattan. Je veux dire, bon, bah, celui-là, on le connaît, il n'y a pas de problème, puisque bon, bah, c'est le premier épisode de CSI Manhattan. Par contre, il y a un deuxième crossover entre Miami et Manhattan qui arrive donc à 22h15, saison 4 de CSI Miami, le tueur de New York, avec Gary Sinise, donc, qui va débarquer chez Horatio. Et comme Horatio, c'est pas un enfoiré, eh ben, dans CSI Manhattan saison 2,
c'est CSI New York, sinon c'est les experts Manhattan. Hein.
Non, CSI Manhattan.
Non, c'est CSI New York dans le nom original.
Ils l'ont appelé Manhattan en VF.
Ça s'appelle Les Experts Manhattan en VF. Attention,
ouais,
confond
bon,
pas, du
c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Et donc, dans CSI New York, qui s'appelle Le Flic de Miami, c'est Horatio qui vient filer un coup de main à son pote Matt Taylor.
Déjà diffusé il y a 3 mois, il me semble.
Ah bah oui, peut-être, hein, mais enfin ouais. Ils se sont dit, ok, quoi, quitte à faire quelque chose, on va le faire bien, quoi.
Au prix auquel on le paie.
Exactement. Alors par contre, je voulais pousser un grand coup de gueule parce que généralement le samedi.
Alors attention, coup de gueule
sur
1,
M6,
2, 3.
Le sur M6 Thomas, le samedi soir à 18h45, c'est Beverly Hills Next Generation. Et là, eh ben non, depuis samedi dernier, a pu. Et pourquoi ? Ça a été décalé au mercredi après-midi 15h30.
Ouais, les gosses, ils
bande
vont pouvoir voir ça. Les gosses, ils vont
bande
pouvoir s'embourgeoiser, rêver de poitrine grossie.
Non, mais justement, quoi, non.
On va bronzer un peu.
Non, un petit peu bronzer.
Papa,
à peine,
tu m'achètes une Ferrari ?
Non, mais il n'y a pas de.
Papa, tu me finances mon label
silicone,
de hip-hop.
Hein, en fait. Hein. Non, franchement, hein. Je vous assure. Sinon, série toujours avec... Alors là, c'est une curiosité qui est diffusée sur Ciné-Cinéma Classique ce soir à partir de 20h40. Rome, Patrouille, Orion, Commando Spatial. Une série initiée par la ZDF en 1966. 7 épisodes de 60 minutes avec Dietmar Schneider, Eva Pflug.
Et je crois pas que ça a été diffusé
Wolfgang
en France auparavant.
Fultz,
je crois que ça avait été traduit à l'époque, mais jamais diffusé, il me semble.
Moi je me rappelle pas du tout de ce truc-là. Par contre, j'en ai entendu parler par le biais du mec qui a fait la musique, Peter Thomas, qui a donc fait la musique de ce commando spatial.
Et c'est parce que t'as vu le même sujet que moi sur Arte là-dessus.
De
D'Anthrax, sur le compositeur.
Oui, qui. Je l'ai vu dans les. Dans les musiques originales avec
Ah oui, mais bah c'était celui-là, pardon.
Voilà,
oui.
Voilà.
Oui, oui.
Et Peter Thomas qui a été débauché par un certain Quentin T. Pour faire quelques petites musiques de films comme ça sur Kill Bill, histoire de. Parce que un certain Quentin T avait vu Commando Spatial, Rome, Patrouille, Orion. Alors que bon, pour un truc qui se veut. C'est pas le Star Trek du pauvre. Parce que bon, c'est sorti en 66, donc pratiquement en même temps que Star Trek, mais c'est la même chose, hein, on est en l'an 3000, une espèce de patrouille spatiale composée d'un équipage de personnes venues d'horizons divers, hein, les Italiens, enfin bon, c'est l'Europe avant l'heure, hein, de toute façon, hein, les Italiens, Anglais, Espagnols, Allemands bien sûr, des Slaves, enfin tout ce que tu veux, un Russe, voilà. Et ils sont chargés de maintenir la paix et de faire que les autres peuples de la galaxie ne s'entretuent pas, quoi. Voilà quel est le pitch de ce commando spatial. C'est en noir blanc, bien sûr, hein, c'est en 66.
Pardon, je m'excuse, ça a été diffusé sur l'ORTF en 67.
Ah bah voilà, tu vois, quoi. Donc, il fallait vraiment.
Et je cherche la musique du générique là en ce moment.
Voilà, trouve-moi la musique du générique. Donc c'est ce soir, ce ciné-cinéma classique. À partir de 20h40, premier épisode, donc hein, il y en a 7 de 60 minutes chacun. Sinon, Torchwood saison 3 sur NRJ 12.
Children of Earth.
Les enfants de la Terre en deux parties, donc à partir de mardi prochain, 20h35 sur NRJ 12. Torchwood qui aura une autre saison. Hein, Russell T. Davis l'a annoncé, donc il n'y a pas de problème et tout, ça s'arrêtera pas à cette saison 3.
Oui, c'est le
qui ne fait
de
que 5 épisodes.
Reclassified ça, la saison prochaine.
Là, ça ne fait que 5 épisodes, hein, la saison 3. Quoi. Donc,
ça a été un truc court qui a été diffusé au rythme d'un épisode par soir, hein, en Angleterre.
Voilà.
Il paraît que la chronologie de la série reprend, suit le rythme de diffusion aussi, puisque ça se passe à chaque fois pendant un jour. Chaque épisode, c'est une journée.
Ouais, enfin là pour énergie, hein, ce sera deux épisodes mardi prochain à 20h35. Point.
Il y a un petit message de notre ami membre de Dromadaire, Emmanuel, qui vit au Québec et qui l'a déjà vu. Il nous a dit c'est une série qui troue le cul à voir juste pour la saison 3. Donc voilà.
Bon, ok.
Voilà. Et salutations aussi, hein. À l'un de nos auditeurs qui tient un blog qui s'appelle Le Tardis.
Oui, tout à fait.
Voilà. Coucou Snufkin.
Pour en terminer avec les non-films, une émission qui.
Bon, d'accord, ok, c'est pas le même fond, vas-y.
Tu l'as trouvé le générique là de Peter Thomas ?
Bah non, parce que t'étais passé à un autre sujet. Alors,
bah, ça fait rien, on peut le passer après quoi.
Bon, ok. Bah,
oui, qu'est-ce que t'attends ? Vas-y, cherche.
je le trouve pas,
Alors,
pas.
Du côté de la.
Dissentation Arbiter.
Ouais,
oh le noob.
Du côté de
ta
la.
Ta gueule.
Du côté de la bonne déconne, c'est sur France 4 vendredi prochain à 20h35. Fiel mes voisins.
Oh merde.
Par les chevaliers du fiel.
Oh merde.
Oh merde.
Trop cool.
Salut les copains.
Francis Ginibre, Eric Carrière, donc sur France 4 vendredi prochain à 20h35.
Alors, on les salue quand même, ils sont sur une radio concurrente et une petite radio associative que l'on salue bien bas.
Ouais.
Coucou
ouais.
Sud.
Ouais, puis bon, à un moment quand ils faisaient des trucs sur
sur Télé Toulouse,
c'était assez rigolo quand même. Il y avait des trucs qui étaient pas mal quoi.
Et à l'époque, c'était pas franchement politiquement correct.
Non.
Ça y allait à fond. Hein.
Non, mais justement quoi. Bon bah ok quoi. C'est pour ça qu'il faut les défendre un petit peu quoi. Et pas parce que c'est les potes de Drucker quoi, tu vois. Ah ben c'est vrai, hein, c'est avéré. Des films à présent avec un documentaire pour commencer. Mais qui parle de films ? C'est ce soir sur Canal Plus à 22h30. Viande d'origine française. Sous-titre Autopsie du cinéma d'horreur français. De Xavier Sayanoff et Tristan Schulman. Avec donc pendant une heure, ils vont interviewer des gens qui vont dire ouais, faire des films d'horreur en France, c'est pas possible. De toute façon, c'est un sous-genre.
Oui, de toute façon, on peut rien dire d'autre.
Voilà. Voilà, c'est tout. Et après ce documentaire à 23h30, le film d'horreur français récent de Pascal Laugier, Martyr.
Ah, suivi, mais ça je l'ai loupé, tiens.
Suivi à 1h10 de Eden Lake, suivi à 2h40 de Diary of the Dead, le dernier Romero. Hein, donc,
soirée horreur, d'accord.
Ouais. Nuit horreur, hein, presque, hein, parce que bon, oui. Jusqu'à 4h du matin quand même, quoi. Sinon, au niveau film, ce soir sur RTL9, un western comme d'habitude, La Route de l'Ouest de Andrew McLaglen, avec Kirk Douglas, Robert Mitchum, Richard Widmark. T'es pas content là ? Alors là, il n'y a plus rien à dire. Il y a également Lola Albright et Sally Field, qui à l'époque, elle devait être super jeune. Donc elle doit jouer le rôle de la fille de quelqu'un. Demain, sur Arte, à 20h40, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Gondry, dans la théma de Arte, à propos du cerveau. Donc avec Jim Carrey, Kate Winslet et Elijah Wood. Sinon, si vous préférez les films un peu bourre-pif, pas le style Inrecuptible ou Télérama, vous irez directement sur Direct 8 à 20h40 demain soir pour Fist de Norman Jewison avec Sly qui n'était pas encore Rocky. Si, il était déjà Rocky,
ah oui,
mais
Fist,
il était
c'est
pas
avec
encore
les
Rambo.
Initiales en fait, c'est F.I. D'accord. Ouais.
Sylvester Stallone en camionneur.
Ouais.
Avec les bras de fer.
Ouais. Ah.
Roach Tiger, ça vaut le coup, c'est pas mal. Ouais. Ou alors, un excellent film de série B sur la chaîne Polar demain soir à 21h à toute allure d'Adam Rifkin avec Charlie Sheen, Christy Swanson. Rappelez-vous, Choupette. Eh oui, la Buffy originelle, Henry Rollins et Josh Mostel. Alors là, ce film, bon. C'est de la déconne du début jusqu'à la fin. Moi j'adore ce film, hein. Je peux le regarder 50 fois, chaque fois je tombe dessus et tout quoi. Attends-en, laisse.
Ouais, on a tous des films comme ça, je regarde les 5 premières minutes.
Excellent, Charlie Sheen, c'était en 94, donc en pleine forme, hein, y a pas de problème et tout. Et puis bon, non, vraiment c'est un film sympa à regarder. Sur TCM demain soir à 20h40, Du silence et des ombres de Robert Mulligan en 62 avec Gregory Peck, Brock Peters et James Anderson. Gregory Peck qui, l'histoire se passe dans les années 30, il prend la défense d'un black dans une ville du sud des années des États-Unis. Il prend la défense d'un black qui est accusé de viol. Donc bon, l'histoire est classique et tout, mais enfin c'est du Gregory Peck, donc ça vaut le coup. Lundi sur Canal Plus, encore documentaire à 20h50, Justice sous tutelle. Là il s'agit de la justice française. Alors les frangins de l'estrade se font une spécialité de nous décrire ce que sont les différentes justices. On a vu Justice à Vegas, documentaire supporters du frangin Xavier de l'Estrade. Là, c'est l'autre Thierry de l'Estrade qui nous fait justice sous tutelle et qui nous parle de la justice en France. Donc, très récent, hein, 2009. Donc, ça vaut le coup de voir un petit peu ce qui s'y passe. Et peut-être qu'il a des infos à propos de qui est le père de l'enfant de Rachida.
Peut-être. Et tant, que tu as lundi, tu n'avais pas parlé la semaine dernière de Jackie Chan à Hong Kong. Que j'ai eu la surprise de voir
il
sur.
Le, il le diffuse et le rediffuse.
Et j'ai regardé ça.
C'est une faute de goût.
J'ai regardé ça. C'était mignon.
Ah oui.
Ah, la bluette avec Jackie Chan.
Ah oui.
Ah là là. Avec Shuki qui reçoit des messages dans des bouteilles.
Dans les bouteilles, le truc dans les bouteilles. Ouais.
Et surtout, Tony Leung en homosexuel avec des différents légumes sur la tête. Oh là là, ça n'a pas manqué.
Alors, je suis absolument vert parce que Rampe Patrouille Orion, je me rends compte que j'ai le sonore, mais chez moi.
Ah,
ouais, parce que je ne savais pas que c'était ça. Alors, malheureusement, ce que l'on trouve sur YouTube n'est pas d'une qualité sonore fabuleuse. Alors, parce qu'en fait, c'est censuré.
Et c'est lui qui a fait la musique, c'est une musique de Kill Bill alors.
Bah continue Luce.
Ok, toujours lundi alors sur Sifi sur Sifi à 20h45
c'est la bonne musique tu vois.
Un téléfilm sympathique anglais de Maurice Phillips, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, avec John Hannah et David Warner. Ça peut le faire, et Kelly Shirley. Sinon, sur Cinéma Frisson à 20h40, une bouse ciné Gary Fleder en 2002 qui s'appelle Impostor avec Gary Sinise, Madden Stowe et Vincent D'Onofrio. Sur Polar à 21h, le Traquenard de Richard Fleischer en 49 avec Lloyd Bridges, Barbara Payton et Douglas Spencer, ou sur Cinéfix lundi toujours à 21h, Les Mutants de la Saint-Sylvestre de Norman G. Warren en 87 avec Susie Hutchinson, Nicky Brooks et Colin Haywood. Mardi sur France 2 à 22h55, Des Serpents dans l'Avion avec Jackson et Marc Guignès. Mais par contre, un bon film de bonne déconne, et c'est un Zucker Abrahams qui fait partie des pas trop connus, c'est peut-être le meilleur, Top Secret, avec Val Kilmer, Omar Sharif et Jeremy Kemp.
Oui, à pleurer de rire.
Question au spécialiste cinéma. Quels sont les prénoms des frères Zucker?
Sans regarder sur le net, bien sûr.
Abraham.
Non, Abraham, c'est le troisième.
Ah merde, alors attends, c'est Z à Z.
Il n'y a pas un Jim dans le lot et...
Jim...
Non.
Ah là là, là je crois que je passe prénom pour
Dickie. Pas... Jerry.
Voilà.
Le Jerry Zucker.
Et l'autre,
je sais pas.
Voilà, David.
D'accord.
Bah c'est normal. Hein.
Et je crois que Jerry Zucker, c'est le plus connu parce qu'il a fait des films en solo après.
Oui, après il a fait des films en solo. Dans le même style, donc Top Secret, c'est sur Comédie, hein, lundi à 20h40. Version multilingue, donc vous n'avez aucune excuse. Sur TF6, lundi également à 22h15, Police Academy, facile. Ou alors la soirée Cinéma Star consacrée à Michael Cimino avec deux de ses meilleurs films. À 20h40 tout d'abord, La Porte du Paradis avec Christopherson, Walken, Huppert. Enfin bon, il y a une distribution dans ce film qui tombe sur le cul. Le
film qui a plombé les artistes associés.
Ouais, qui a...
Oui, en plus, c'est vrai.
Ouais. Et à 23h05, le film qu'il a fait connaître, donc The Hunter en 78.
Voyage au bout de l'enfer.
Voilà. Mardi, sur Cinéma Classique, 20h40, Pancho Villa de Bruce Kulick, co-écrit par Sam Peckinpah avec Robert Mitchum, Yul Brynner, Frank Wolf et Charles Bronson. Ouais. Cinéfix vous propose, si vous ne l'avez pas encore vu, 20h21, Serenity, le Joss Whedon avec Nathan Fillion et Gina Torres. Mercredi.
Avec Summer Glow.
Et Summer Glow, enfin bon, toute la bande à Whedon. Hein. Mercredi sur RTL9 à 22h35, L'homme de guerre de Perry Lang. Je vous en ai déjà parlé de celui-là avec Dolph Lundgren, Charlotte Lewis, Anthony John Dennison et Kevin Tigg, ouais. Ou alors, sur NT1, ça c'est le fleuron, à 20h35, réalisé par Dolph Lundgren, The Controller, avec Dolph Lundgren bien sûr, et Ben Cross, un film de 2005. Ou alors, pour ceux qui aiment bien Télérama et Les Inrecuptibles, Ciné Cinéma Club, 20h40, Lily Marlène de Fassbinder. Celui-là, si tu l'as pas vu, c'est que tu connais rien au cinéma. Là, ça c'est dans ta gueule, tu vois. Anna Chigula,
John Carl,
mais pas pour toi, hein. C'est pas parce que t'es en face de moi que c'est. Anna Chigula, Giancarlo Giannini et Mel Ferrer, le papa de Miguel. Le jeudi sur Arte, à 20h45, ça c'est quand même assez étonnant, hein, qu'il passe ce film, Donnie Darko. Tu vois,
ah, c'est bien.
20h45, le film de Kelly avec Gyllenhaal et James Duval. Et jeudi, bah, y a également le choix entre la soirée excellente de TF6, 20h40 Hellboy, 22h50 X-Men 2. Ça, c'est la soirée, ok, hein, tu dis, ouais, y a pas de problème.
Avec des couilles.
Ouais, ou si tu veux des couilles, mais là, je crois qu'il y en a pas, quoi. C'est sur Ciné Cinéma Club. Clarisse de Burt Trenbaré en 78 avec Brigitte Lahaie, ah. Dominique Aveline, Richard Allan. Hein hein
c'est un film.
Richard Allan dans les films de cul français des années 70-80, c'est le barbu.
C'est un film de Jean Rollin ou quoi?
Non, de Burt Trenbaré.
Alors, sous pseudo, c'est pas possible.
Non, c'est un pseudo, mais bon, c'est un type qui a fait un nombre assez incroyable de films porno français.
Jean Rollin. Non, je déconne.
Non, là, franchement, porno, quoi. Non, sauf que là, bon, bah, c'est les pornos qui sont un petit peu, on va dire, débroussaillés, hein, sans jeu de mots, pour pouvoir être passés sur un écran de télé. On termine avec vendredi, Arte, à 20h45, Double Jeu, un téléfilm allemand de Friedrich Kern, avec Senta Berger. Ya, on parlait des films un petit peu... de Gaudriol, on va dire, de la fin des années 70, début des années 80, eh bien, Senta Berger était l'une de, tu sais, l'infirmière ou la doctoresse ou tout ça, quoi, ou la fille du régiment, ce genre de film où ce n'était que prétexte à voir des nanas un petit peu à poil et tout. Senta Berger était l'une de ces actrices qui n'avait aucun scrupule à dévoiler sa plastique tout à fait admirable et sans silicone s'il vous plaît. Double Jeu donc sur Arte à 20h45 avec Senta Berger qui joue le rôle d'un commissaire de police, donc là c'est vachement plus sérieux. Rudolf Krause, Frank Behnke et Thomas Hayden. Sur RTL9 vendredi prochain à 20h35, Mission de Roland Joffé, bah ouais, bah quand même quoi, avec De Niro, Irons, Aidan Quinn, Sherry Lungi. Palme d'or à Cannes, Mission en 86.
Ou alors avec sur Sci-Fi. Musique absolument magnifique.
Ou alors sur Sci-Fi à 20h45, Profession Génie de Martha Coolidge en 85 avec Gabe Jarrett, Val Kilmer, Ed Lauter et William Atherton. Devine qui est le méchant. Cinéma classique à 20h40. La Brigade des Stupéfiants de Laszlo Benedek en 49. Laszlo Benedek qui, quelques années plus tard, allait nous faire. Une équipée sauvage avec Marlon Brando, avec la moto. Tout le monde a le poster de Marlon Brando avec la moto dans l'équipée sauvage de Laszlo Benedek. Et là, dans ce film, eh bien, on retrouve Scott Brady, Richard Rober, Katie Stevens et Yul Brynner dans son premier rôle au cinéma. Donc 49, La Brigade des Stupéfiants. Et on termine avec le film de Cinéfix du vendredi soir. C'est bien entendu un...
Western ?
Mais non. Ah, alors.
Je l'ai dit.
Hercule et les mercenaires, ah, oui. D'Umberto Lenzi en 64 avec Richard Harrison dans le rôle de Hercule. Hein, c'est plus Gordon Scott. Non, là c'est Richard Harrison. Donc ça va.
Un bodybuildé en remplace un autre.
Ah bah ouais, bah écoute. Non, lui il est pas tellement. Lui c'est pas un ex. Lui c'est un acteur qui est un petit peu bien. C'est pas comme les autres, les Ken Parks ou Gordon Scott, Steve Reeves, qui étaient des sculpturistes, qui sont devenus Hercule par la force des choses, mais qui n'étaient pas acteurs au départ, alors que lui, c'est quand même un acteur au départ, et qui devient un petit peu bodybuilder pour jouer le rôle d'Hercule. C'est ça la petite différence qu'il y a. Enfin bon, c'est sur Cinéfix, hein, de toute façon. La semaine prochaine, il y en aura un autre, t'en fais pas.
Le supplément week-end numéro 215, c'était sur Radio FMR. Et ma foi, peut-être que vous êtes arrivés comme ça, vous avez débarqué dans cette émission, dans cette conversation de fous furieux, et vous dites, j'ai manqué quelque chose. Heureusement, Thomas, lui, a pris scrupuleusement des notes et en a fait un résumé. Thomas, pour les retardataires, qu'est-ce qu'ils ont loupé ?
Ah ben, ils ont loupé une interview d'un député des Verts et fan de BD populaire, une bimbo chez les damnés, du patchwork en grand écran, des rongeurs en 3D, 3G, GPS, du crossover à gogo en méga full frontal, la suppression de poitrine pas si siliconée que ça, des coucous divers et variés, des cowboys, des mutants, des cerfs, du Dolph, du Sly, du porno débroussaillé avec le barbu et le péplum du vendredi.
Nom d'une... nom d'un pulp oublié au fin fond d'un grenier et que, ma foi, on va peut-être vendre très cher au BDM demain à la foire d'échange du livre à Ramonville-Saint-Agne. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée et à l'écoute à la demande, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi retrouver les précédentes émissions pratiquement en entier, réécouter les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser des commentaires, poser vos questions. Par exemple, cette semaine, il y a la chronique des nombrils, la chronique du film Un prophète, la chronique de cicatrices de guerre, le samouraï bambou et surtout coup de cœur de la semaine dernière, Arabico. Pour cela, c'est facile, il suffit d'aller sur le site internet de l'émission suppléantweekend.fr. Suppléantweekend.fr, 500 nitires. Vous écoutez 4FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Booster nous prend la suite à partir de 17h et nous on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, on ne sait pas si on est là la semaine prochaine. Donc, dans le pire des cas, rendez-vous pour le Toulouse Game Show. Voilà, ciao, bye bye. Et rendez-vous ben, peut-être samedi prochain à midi, même heure, même fréquence. Ciao, plus, et je vous laisse entre les mains experts du sport.